profiter de notre promo de golfeurs et voiturettes motorisées pour 95 $, taxes incluses. Golf Lobinière, Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20, à 15 minutes des ponts.
Êtes-vous de ceux qui commencent la nuit bien à briller, puis qui sortent une jambe, puis un bras, puis l'autre jambe, puis qui tournent l'oreiller de bord, puis qui poussent les draps par terre, puis qui terminent la nuit dehors couchés sur le balcon? Quand vous sentez la température monter, passez à la vraie fraîcheur grâce à Dormez-vous et leurs matelas, oreillers et articles de literie rafraîchissants. Durant l'événement Dormez au frais, obtenez jusqu'à 25% de rabais sur presque tout. L'offre se termine bientôt. Dormez-vous, fièrement d'ici et avec vous pour tous vos déménagements depuis plus de 30 ans.
Savais-tu qu'un climatiseur, ça ne contient pas juste de la fraîcheur? Ça contient aussi une tonne de GES. Pour t'en débarrasser, recycle ton climatiseur avec Go Recycle. Trouve ton point de dépôt à gorecycle.com. À Go, recycle ta clim.
Plancher BFC Flore Déco, fier dépositaire de la peinture Benjamin Moore. Tous les revêtements de plancher et la décoration sont présentement en promotion. Des rabais de 10 à 50. Venez rencontrer nos designers au 2700 rue Jean Perrin. Plancher BFC Flore Déco, beaucoup plus que des planchers.
Le grand jour est arrivé. Pour votre déménagement, gâtez vos amis et vos invités avec le fameux baril de poulet PFK. Parce que le moment est toujours parfait pour du PFK, on vous attend à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-de-la-Capitale, Beauport, secteur Saint-David et maintenant au 840 Bouvier. PFK, des produits 100 % canadiens, préparés sur place et frais en tout temps.
Choix.
Choix.
Hell yeah!
98.
La fameuse originale.
Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture. Dans le mid, okay. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben là, c'est un point de presse de Denis Coderre.
Ben oui.
Qui donne son appui à Éric Duhem.
Eh ben.
Pour l'éventuel, hein? Éventuelle élection partielle dans Arthabasca.
Ça veut-tu dire que Denis Coderre pourrait éventuellement se présenter pour le PCQ?
Moi, on me dit que oui.
Ah ouais, hein?
Moi, on me dit que oui.
On me dit que tout, on te dit que oui.
On me dit que oui.
On te dit que oui.
Donc voilà, c'est fait. Denis Coderre qui donne son appui à Éric Duhem pour éventuellement. Elle n'est pas déclenchée encore, là, la partielle.
Non.
Notre chroniqueur, il est là?
Yes.
Yes.
Chronique techno. Avec François Charon. Chronique techno. FrançoisCharon.com.
Oui, exceptionnellement, on a Vincent Paquette, le bras droit de François. Ça va, Vincent?
Yes, sir.
Écoute, 184 millions de mots de passe qui ont fuité de Google, Microsoft, Facebook. Là, ça commence à faire du monde à la messe.
Hey, mais ça commence à faire du monde à la messe, comme tu dis. Quoi, c'est une base de données qui a été détectée par un chercheur en cybersécurité qui s'est rendu compte que cette base de données-là était absolument pas sécurisée, c'était public, n'importe qui pouvait y accéder. Mmh. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'accès a été restreint. La mauvaise, c'est qu'on sait pas depuis combien de temps elle était publique. Donc, ça peut avoir fuité sur le dark web, ça peut avoir fuité dans les mains de pirates informatiques. Et malheureusement, c'est pas comme une fuite de pétrole, on peut pas mettre des balles de golf là-dedans pour essayer de récupérer le tout. Dans la mesure où nos données ont fuité, c'est parti. Après ça, comment savoir justement si nos données ont fuité? Il existe des sites internet, notamment Have I Been Pwned. Là, commencez pas à essayer de noter là, sur la chronique. Non, vous avez littéralement le lien pour y aller.
Ouais.
Puis Have I Been Pwned, essentiellement, ils vont recenser toutes ces fuites de données-là. Ils vont faire eux-mêmes une base de données pour qu'après ça, moi, je puisse rentrer mon adresse courriel. Puis après, ils vont me dire, OK, ton adresse courriel, là, elle est associée à tel compte qui a été piraté ou à telle plateforme qui a eu une fuite de données. Et à mesure que je suis informé, je vais me rendre sur ces plateformes-là pour aller changer mes mots de passe parce que c'est ce qui est primordial. Il faut changer nos mots de passe moindrement qu'ils ont été compromis. Et on se souvient, on doit prendre des mots de passe qui sont forts et surtout des mots de passe diversifiés. Ne faites pas l'erreur de réutiliser les mêmes mots de passe à gauche et à droite.
Oui,
parce qu'il suffit qu'un seul domino tombe pour que toute la rangée tombe.
Oui, puis ils vont vous niquer, comme on dit.
Oui, niquer.
Vous allez faire vider vos comptes. Il y a quand même des logiciels hein, pour les mots de passe, ça existe?
Oui, exactement. Un gestionnaire de mots de passe, là, c'est là que ça va vous aider dans la mesure où justement, on ne veut pas retenir des dizaines, voire des centaines de mots de passe différents, surtout quand on parle de mots de passe forts. Là, on parle de mots de passe à 40 caractères, lettres minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Je comprends bien que le commun des mortels n'est pas capable de retenir ça. Donc, un gestionnaire de mots de passe, justement, vous avez un seul mot de passe à retenir. Le tout est protégé par chiffrement. Donc, il y a vraiment seulement vous qui avez accès à ces informations-là. Même les gestionnaires de mots de passe n'ont pas accès à vos mots de passe, ce qui va vous permettre justement de ne pas avoir à retenir une tonne de mots de passe et vous allez sécuriser vos comptes.
Est-ce qu'on paye pour ce service-là ou il y en a de gratuit? Puis habituellement, quand c'est gratuit, c'est louche, là?
Ben, il y en a un qui existe qui est open source, donc c'est gratuit, mais ouais. Il existe des solutions qui sont payantes, effectivement, mais ça coûte vraiment pas si cher, gang. Là, on parle d'à peu près 2 à 3 $ par mois. On peut même se souscrire à un abonnement familial pour avoir 5 personnes, puis on n'a pas besoin d'avoir une famille pour pouvoir utiliser ça. Là, on peut se partager ça en chum pour essentiellement couvrir 5 à 6 personnes, puis on parle d'un abonnement qui coûte 5-6 piastres par mois. Franchement, là, ça vaut vraiment la peine pour protéger nos comptes.
Tu dis on doit éviter d'utiliser les connexions rapides via Google ou encore Facebook.
Oui, justement, dans la même lignée, si jamais on a nos données qui ont fuité justement par rapport à nos comptes Google, nos comptes Facebook, tu sais, souvent, quand on veut se connecter, on veut se créer un compte. Plus souvent, ça va nous dire, ben écoute, tu peux te créer avec un mot de passe. Puis là, encore une fois, on revient au même problème que les gens ne veulent pas retenir des dizaines, des centaines de mots de passe. Puis on nous offre l'option, connecte-toi avec ton compte Google, connecte-toi avec ton compte Facebook. Hey, c'est-tu pas combien pratique? Un petit clic, merci, bonsoir.
Ben oui.
Mais dans une circonstance où nos données ont fuité, où nos données ont été compromises, ouais. On comprendra bien que les pirates, ils vont s'essayer sur tout l'ensemble des comptes justement qui utilisent ce moyen de connexion-là. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. D'autant plus que toutes les personnes qui aiment pas se faire traquer par les géants du web, comprends-tu que si tu te connectes via Facebook à un compte à gauche et à droite, ils le savent, ils sont en train de puiser de l'information puis après ça, te vendre de la publicité dans ton feed de Facebook ou dans tes recherches de Google. Bref, pour ces deux raisons-là, on ne veut pas utiliser ces fameuses connexions automatiques via Google, Facebook ou même les comptes à Apple.
Ouais, ben c'est ça. Maintenant, ChatGPT là, me demande, veux-tu avoir un compte, t'ouvrir un compte avec un mot de passe ou y aller directement avec ton Google ou ton Facebook? Tu dis, faites pas ça, ça multiplie les entrées possibles.
Exactement, surtout ChatGPT. Hey, combien d'informations que tu peux y donner à ChatGPT? Des informations personnelles, des informations pour le travail, parce que tu veux résumer un document ou quoi que ce soit. Hey, c'est une tonne de données que tu peux compromettre en utilisant ces moyens de connexion qui sont pas sécuritaires.
Donc, on continue dans la thématique de protéger nos comptes, les doubles facteurs de plus en plus populaires.
Oui, exactement. Donc, dans la mesure où, bon, on utilise un gestionnaire de mots de passe, on crée des mots de passe forts, puis là, je vante ces solutions-là, mais le hic qui peut survenir, c'est encore une fois dans le cadre d'une fuite de données. Si une base de données a été compromise, j'ai beau avoir utilisé un mot de passe fort, la donnée, elle a fuité.
Ouais.
Et c'est dans ces circonstances-là qu'on veut utiliser la double authentification. C'est quoi ça? C'est le principe que quand je me connecte à un compte, je rentre mon mot de passe, puis là, ça va me dire, hey, attends une minute, avant de pouvoir accéder, là, je vais t'envoyer un second code que tu vas devoir entrer pour pouvoir te connecter. Dans la majeure partie des cas, là, bien des services vont nous envoyer ça par courriel ou par texto.
Desjardins marche de même depuis la fuite des données, là.
Exactement, mais c'est parce que c'est pas des moyens qui sont sécuritaires non plus. Hey, par courriel, si mon compte courriel a été compromis, comprends-tu que le code s'en va chez le pirate? Même chose pour les textos, c'est pas sécuritaire, c'est pas sécurisé. Il y a des moyens de fraude, encore une fois, avec une fuite de données, il y a des personnes qui peuvent tenter de se personnifier, d'aller contacter notre fournisseur de téléphonie en disant « Hey, ma carte SIM, je l'ai perdue » ou « Mon téléphone, je l'ai perdu, pourrais-tu m'en renvoyer une autre? » Et à partir que le fournisseur obtempère et envoie la fameuse carte SIM, ben là, après ça, les pirates vont pouvoir accéder à nos fameux codes de double authentification. C'est pourquoi il existe donc des applications, je pense notamment à Google Authenticator, à Microsoft Authenticator, oui. À Holly, qui vont nous permettre de générer ces fameux codes-là, mais eux, ils vont les régénérer aux 30 secondes. Hey, c'est bien plus difficile que d'intercepter
oui,
le tout.
Oui, oui.
Donc, moindrement, quelqu'un, il faudrait littéralement qu'il ait accès à notre téléphone parce que c'est pas lié à un autre compte, c'est vraiment lié à notre téléphone. Donc là, il y a des codes qui vont se régénérer pour vraiment protéger nos comptes.
J'ai vu pour les téléphones cellulaires, là, quand tu change ta carte SIM, habituellement, il gèle pendant 30 minutes ton compte de téléphone et tu as 30 minutes, tu reçois un avis pour te dire il y a quelqu'un qui veut changer ta carte SIM. Est-ce que c'est toi? Oui, non. Et tu as un délai, là. Mais c'est sûr que si tu n'as pas le 30 minutes, tu peux te faire avoir de cette façon-là aussi.
Définitivement.
Donc, à suivre. Parents d'ados, on dit que Meta veut aider avec un centre familial?
Ouais, écoute, moi, mes enfants sont encore trop jeunes pour être sur les réseaux sociaux, mais j'appréhende le jour où ils vont vouloir y aller parce qu'on le sait, les dangers.
Ça, ça arrive vite. Je ne veux pas te décourager, là, mais...
Il me reste encore 9 ans. Moi, ma vie, elle a 4, là. Fait que j'ai encore un bon 9 ans devant moi.
Ah, mais avant ça, d'après moi.
Mais il reste quand même que, bon, justement, j'appréhende ça parce qu'on sait les dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux et Meta en est conscient. Mettons, on se souvient, c'est la maison mère de Facebook et d'Instagram. Et donc, la semaine dernière, ils ont lancé ce qu'ils appellent le centre familial, qui est essentiellement un hub pour monitorer certaines des activités de nos ados. Et je mets l'emphase sur le mot « certains » parce que le but, c'est pas d'espionner nos ados. Hein, ils veulent absolument pas ça. Quand bien même que, justement, il faut que nos ados obtempèrent si eux-mêmes, on va leur envoyer une invitation en disant « Hey, tu sais quoi, j'aimerais monitorer certaines de tes activités. T'es-tu d'accord? » Et là, le jeune va accepter. Puis qu'est-ce qu'on peut monitorer? Ben, le temps qui est passé sur ces plateformes-là par nos enfants. C'est quoi les paramètres de confidentialité qu'ils utilisent? Puis là, ouais, on peut faire un peu d'éducation avec eux. « Hey, tu sais, tes photos sur Facebook, là, je vois que tu utilises la confidentialité public. Ça, ça veut dire que n'importe qui peut les voir, puis après ça, n'importe qui peut rentrer en contact avec toi. Je pense que ce serait une meilleure idée que tu limites ça à tes amis. D'autant plus que dans ce fameux centre familial-là, on va pouvoir recevoir des alertes si jamais notre enfant est abonné à un compte ou est ami avec un compte qui a été signalé. Donc, un compte
louche,
qui pourrait s'avérer louche, qui pourrait s'avérer louche, qui pourrait être malveillant, qui pourrait être frauduleux. Donc là, encore une fois, on peut avoir une conversation avec notre jeune en disant « Hey, ce compte-là, il a été signalé. Je pense que ce serait une bonne chose que tu sois plus en contact avec celui-ci. »
Certains nous dirait, ben là, Meta, c'est sûr qu'ils veulent séduire les parents pour qu'on on ait accès aux enfants là, plus facilement. Il y a tout ça aussi, parce que tu sais, dans le fond, là, on va superviser nos enfants, je comprends, là, mais on les amène ces réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, on ne forcera pas, tu sais, je veux dire, on peut pas empêcher nos jeunes de se créer des comptes. On le sait qu'ils vont le faire. Après, c'est juste une question d'éducation avec eux plutôt que d'essayer d'enterrer le problème puis de mettre des œillères à ses yeux puis de faire là, il se passe rien. Non, on est aussi bien d'avoir une conversation puis d'utiliser ces moyens-là pour après ça qu'ils puissent utiliser judicieusement les réseaux sociaux.
Là, tu dis profiter de vos écouteurs dans l'avion, un petit bidule qui va faire en sorte que tu vas avoir accès à tes écouteurs.
Ouais, ben j'aurais peut-être dû préciser, parce que là, il y a bien des gens qui vont se dire, ben là, mes écouteurs, je suis capable d'écouter ma musique sur mon téléphone.
Ouais.
Là, je parle vraiment sur le moniteur de l'écran qu'on écoute devant nous, quand on écoute un film. Parce que bien souvent, on a des AirPods, on a des petits écouteurs boutons. C'est pas, ça n'a pas de fil, ces affaires-là. On peut pas les connecter pour pouvoir écouter devant nous. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben des fois, il y a des compagnies aériennes qui vont nous vendre des petits écouteurs cheap qu'on va acheter tout
de suite. Moi, je traîne toujours mes vieux écouteurs à fil qui datent de plusieurs décennies, là, mais qui font toujours la job en avion parce que, justement, il n'y a pas de sans-fil.
Ben, ça fait la job, mais tu sais, c'est plate quand tu as dépensé des centaines de dollars sur un bon casque d'écoute, en plus avec la suppression des bruits ambiants, tout est chose qui me permettrait de vraiment profiter de mon film pendant l'avion. Et donc, justement, pour pouvoir en profiter, ben, il existe un petit émetteur Bluetooth qu'on va connecter. C'est le même principe qu'un écouteur, là, donc c'est le même port audio, le port jack qu'on appelle.
Ouais.
On plug ça dans l'écran dans l'avion, essentiellement, on le jumelle avec nos écouteurs et voilà, le tour est joué. On va pouvoir regarder les films, on va pouvoir regarder les émissions dans l'avion avec notre bon casque d'écoute.
Bon, à suivre. Puis là, tu me dis, les moustiques, il y a des trucs pour éloigner les moustiques de façon écologique, mais contrôlés par Amazon ou Google, par l'assistant?
Ouais, ben c'est-à-dire que bon, on s'entend, la saison des moustiques, ça s'en vient. Puis d'une part, ben on peut savoir, il existe une carte en ligne qui est produite par la compagnie de répulsifs Off, qui est un peu des conditions météorologiques, mais là de moustiques, qui va nous permettre de voir c'est quoi les prévisions météorologiques des moustiques pour la prochaine semaine. Parce que bon, la prolifération des moustiques, ça dépend de l'eau stagnante, la température, l'humidité. Donc pendant les vacances, on va être en mesure de voir c'est quoi le pourcentage de moustiques selon les régions. Mais bon, si à la maison on est pris dans une zone qui a bien des moustiques, puis qu'on veut pas se payer juste des petites chandelles et tout le tralala, il existe un kit qui, essentiellement, c'est une petite tour que, comme tu dis, on peut contrôler par Google Home, nos assistants vocaux, qui va propager un espèce de dôme. Là, on va reprendre un peu le dôme doré de Donald Trump pour les missiles, mais là, c'est vraiment un dôme contre les moustiques. Donc, à la Star Wars, on propage un espèce dôme. Un dôme avec, donc, essentiellement, c'est un répulsif là, qui utilise les fleurs de chrysanthème, qui serait vraiment un excellent répulsif à moustiques. Donc, ça crée des dômes autour de nous pour, encore une fois, repousser essentiellement ces petite bête qui nous énerve tant pendant l'été.
Merveilleux, Vincent, merci beaucoup. Là, tout ce qu'on a dit, ça va être disponible sur la chronique sur le site de François Charon et sur
RadioX.com.
Voilà. Vincent Paquette, merci beaucoup. On se reparle.
Merci.
Salut.
Ciao.
Bye.
Voilà. Le dôme, hein? Le dôme.
Ouais, on peut se créer notre propre dôme anti-moustique. Hier, je mangeais dehors des superbes steaks avec ma blonde dans le gazebo, puis il y avait de la moustique en tabarouette. Ça aurait été pratique un dôme anti-mouche, là.
Moi, mon chalet, il y a des moustiques jusqu'au 1er juillet à peu près. Et c'est des Canadiens. C'est des moustiques canadiens. Les autres, ils fêtent la fête du Canada, là. Puis après ça, là...
Il quitte.
Il quitte. Parce qu'à Saint-Jean, là, c'est incroyable.
Ouais.
Ah, il y a du...
Ben oui.
Tu dis, tu peux même pas aller dehors. J'ai un gazebo spécial là, pour ça. Là. Je me suis fait faire un gazebo anti-moustique.
T'as pas le choix.
Là, t'as la paix.
Ah oui.
Là, au moins, tu peux prendre un petit breuvage sympathique.
Mais thermocène, ça fonctionne.
Oui, ben, il y a toutes sortes d'affaires de même aussi. Ouais. Mais écoute, même à ça, il y en a qui ont des masques.
Ah, des masques anti-mouches.
Tu sais, l'espèce de casque.
Oui, oui,
là,
oui, comme un peu
filet,
comme
là.
Un apiculteur.
Oui. Ouais. T'as l'air bizarre, là, mais.
C'est sûr que tu passes une moins belle soirée au feu, là.
Ou tu pognes la bouteille, la bouteille de off, là.
Ouais, puis là, t'as
un
beurre.
Tu t'asperges.
Mais c'est pas très. Pour les CO2, tout ça, là. Tu sais, là, il y a un gaz là-dedans, là, l'arrêt au sol, là.
Parce que le citron, là, la citronnelle, là.
Marche pas.
Il y a une limite, là.
Dans le thermocèle, ça fonctionne bien.
Voilà. Après la pause.
Tu t'es dit pour les mouches, je pense.
Tout ce que vous voulez savoir sur les chiffres.
Yes.
Sondage numériste. Le grand patron
file. On saura tout.
Ouais, le grand patron file Lefebvre débarque dans le show. Il nous donne de A à Z tous les chiffres.
Couture dans le mid.
Radio X.
Le retour de Radio X.
Les dalles de béton.
Oui.
Est-ce que ça fend la ville en deux?
Non.
Ça n'a rien à voir avec ce qui va être proposé avec le tramway.
Non, pas de dalles surélevées. Il n'y a pas de rail. Il n'y a pas de dérangement là-dedans. C'est vraiment des comme une voie de voiture, mais dédiée à l'autobus.
Ah, je suis allé voir votre vidéo. Je dis là, s'il y a du filage, moi le dire à monsieur. Moi là,
le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X.
Une présentation de 1-800-GOT-JUNK. On ne peut pas faire disparaître le mauvais temps, mais votre vieux matelas encombrant, ça oui. 1-800-GOT-JUNK, suffit de pointer.
La clinique dentaire La Perrière change de nom et devient la clinique dentaire Rivière-Saint-Charles. Nouveau propriétaire, même adresse, même engagement à vous offrir des services de haute qualité pour toute la famille. La clinique dentaire Rivière-Saint-Charles, 303 boulevard Pierre-Bertrand.
J'ai des amis humoristes qui me disent que ce qu'ils trouvent dur en tournée, c'est les déplacements. Mais même à vous dire, pour PA, c'est pas le cas. Quand tu roules dans un Nissan de Sainte-Foy-Nissan ou Beauport-Nissan, on dirait que plus le show est loin, plus je suis content.
C'est le temps de changer.
Durant l'événement Là, c'est Nissan, le Rogue est offert en location sur 36 mois à seulement 0,99%. Un taux d'intérêt aussi bas que ça, ça te baisse un paiement, puis pas à peu près. Venez essayer le Rogue cette semaine chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
En juin, c'est homard dans vos entrecôtes riverains. Dégustez nos raviolis, linguines ou risotto mettant en vedette le homard du Québec. Pour des plats de qualité tout en sauvant sur votre facture, choisissez vos entrecôtes riverains de Beauport et Saint-Romuald. Apportez votre vin. Un toit à refaire ou à réparer, faites confiance aux toitures MR. Toutes nos installations et réparations répondent aux plus hauts standards de qualité. Toit résidentiel ou commercial, demandez votre devis gratuitement. Les toitures MR, vos experts du bardeau d'asphalte. Les toitures MRinc.com.
Êtes-vous de ceux qui commencent la nuit bien à briller, puis qui sortent une jambe, puis un bras, puis l'autre jambe, puis qui tournent l'oreiller de bord, puis qui poussent les draps par terre, puis qui terminent la nuit dehors couchés sur le balcon? Quand vous sentez la température monter, passez à la vraie fraîcheur grâce à Dormez-vous et leurs matelas, oreillers et articles de literie rafraîchissants. Durant l'événement Dormez au frais, obtenez jusqu'à 25% de rabais sur presque tout. L'offre se termine bientôt. Dormez-vous, fièrement d'ici et avec vous pour tous vos déménagements depuis plus de 30 ans.
Capsule Audio Conseil. Une présentation Auto Hi-Fi à Québec. La référence en sonorisation haute performance pour tout genre de véhicule.
Alors, boutique, atelier et une équipe de passionnés, nous recevons un ami, un expert en studio, Frédéric Bernier, propriétaire Auto Hi-Fi.
Allô, allô, bonjour à tous.
Donc, terminé l'époque où on devait changer la radio dans un véhicule pour optimiser la sonorisation. Parlons du fameux processeur DSP, Digital Sound Processing, la technologie du futur, semble-t-il.
Exactement, Claude. C'est une nouvelle composante électronique que nous intégrons au système de son d'origine, peu importe le type de véhicule. Un DSP nous permet de calibrer et répartir la puissance idéale à chaque haut-parleur, en plus d'ajuster les fréquences avec précision. Résultat, un son incroyable. Vous aurez le feeling d'être dans une salle de spectacle. Viens vivre l'expérience en magasin ou dans l'un de nos véhicules démonstrateurs.
Auto Hi-Fi, rue Bouvier, à Québec. Un monde d'excellence.
Savais-tu qu'un climatiseur, ça ne contient pas juste de la fraîcheur? Ça contient aussi une tonne de GES. Pour t'en débarrasser, recycle ton climatiseur avec Go Recycle. Trouve ton point de dépôt à gorecycle.com. À Go, recycle ta clim.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Petit party ou moyen party, cet été, rentre en sécurité avec le service de raccompagnement de TZ Capital National. Jusqu'au 6 juillet, abonne-toi à TZ et obtiens une année gratuite. Ben oui, jusqu'au 6 juillet chez tzcapital.com.
Salut, c'est Max de Barbecue Québec. On connaît tous quelqu'un qui a un barbecue Napoléon depuis 15 ans et qui fait les meilleurs steaks avec son fameux infrarouge. Ben là, c'est à ton tour. Passe chez Barbecue Québec et mentionne Radio X pour obtenir un cadeau. Québec, Boucherville et Laval, barbecuequebec.com. Bon barbecue!
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture. It's amazing. Dans le mythe.
Vous savez?
Avec Pierre Couture.
Toutes sortes de choses qui se disent sur Pierre.
Et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben l'histoire de la SAC, là, c'est, ça s'invente pas, là. C'est la même affaire. Ils veulent faire la même affaire qu'ils ont faite avec la caisse de l'assurance emploi.
Ouais, oui.
Dans les années 90, souvenez-vous, Jean Chrétien avait pigé d'un surplus
ouais.
pour payer les déficits de l'État. Mais là, la SAC, qui a tellement mal géré son projet SACLIC, là, on voudrait venir piger des indemnités qu'on donne aux accidentés de la route pour venir chercher l'argent pour payer SACLIC, parce que SACLIC, ça devait faire épargner de l'argent. Et au contraire, là, on a un dépassement de coûts de 500 millions de dollars. Là, il y a du monde au bout de leur chaîne. Je regardais Marc Bellemare qui était ce matin dans le show de Morais. Lui, il capote, là, il dit voyons, ça n'a aucun sens.
Mais non, ça n'a aucun sens.
Je vous dis là, et en même temps, là, ça clique, on le voit la commission Galant, là, comment il y a un fiasco, comment on a monté en bateau tout le monde. Les consultants informatiques en mènent large de plus en plus dans les sociétés d'État, des projets. Personne ne savait rien, on ne connaissait pas ça.
Ben, je sais, en tout cas, je sais pas si tu as vu l'histoire concernant la firme qu'on a mandatée pour enquêter
oui.
sur le projet qui finalement enquêtait pas tant que ça parce que. Elle s'occupait des finances de IBM, donc par la bande LGS. Non, non, c'est tout que.
Hey, c'est toute une patente. Et on découvre ça, hein, les Québécois. On découvre tout ça devant nous. Là, c'est un spectacle tous les jours.
Pourtant, on avait eu pas mal une bonne pratique avec la construction. Là.
Ouais.
On l'a pas compris.
Mais là, c'est l'informatique. Je pense qu'on pourrait. Fouiller et trouver bien d'autres choses. Là.
Probablement.
Voilà, à suivre. Notre invité, il est là.
Oui.
Sylvain Charlebois, le food professeur en direct du Texas. Sylvain, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va bien?
Ça va bien, ça va bien.
Il fait un beau 28 degrés Celsius, puis on est toujours, quoi, il est 9h46 ici. Oh. Là, fait qu'on s'attend à une grosse journée chaude, encore une fois.
Oui, le Texas, la semaine dernière, tu étais en Colombie-Britannique. Ça roule?
Ouais, c'est dites-le pas à Laure Waridel, par contre, parce que je dépense beaucoup d'essence. Mais tu sais, veux pas, là, pour faire le travail que je fais, faut rencontrer du monde, là. T'sais, faut comprendre ce qui se passe sur le terrain. Rester dans mon bureau, c'est beau, là, je peux lire autant que je veux, mais pour vraiment comprendre les enjeux agroalimentaires, tu sais, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur de secret, hein, en
oui. passant.
Pas grand monde qui vont dire vraiment ce qui se passe avec les marges, avec les tarifs, avec toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias. Puis à chaque fois, je me gratte la tête en disant « Oh mon Dieu, c'est tellement pas comme ça que ça se passe. » Puis en entreprise, les gens, ils savent, mais ils peuvent rien dire. Mais moi, j'ai le luxe de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir dire des choses en se basant sur ben, les choses que j'entends. Là.
Oui, effectivement. Ouais. Et là, ben, cette semaine, ton sujet, là, tu voulais jaser de ce qu'on entend, justement.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, d'abord, ben, je sais pas si ça a été dans la presse au Québec, là, la blase a finalement réglé. Là. Ça n'affecte pas encore le Québec. On attend encore des nouvelles pour, je pense, le 5 juin.
Oui, c'est le cartel du pain, là, le fameux cartel du pain où là, il y a un juge cette semaine qui a donné le feu vert. On va verser 500 millions de dollars, puis il y a une partie qui va venir au Québec. Là, mais je pense que le 16 juin, il y a des audiences devant un juge au Québec là, pour déterminer le montant également. Là. Mais écoute, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que cette cause-là est devant les tribunaux. Là.
On va retourner en arrière à 2001. Donc, on soupçonne que le cartel a commencé en 2001, a duré 14 ans. 14 ans.
De
2001
incroyable.
À 2015. Pourquoi 2015? Ben, c'est là que Loblaws est allé au bureau de la concurrence et on leur a dit, écoute, il y a un cartel, on participe au cartel avec George Weston, qui appartenait aussi à Loblaws à l'époque.
Oui.
On leur a offert une immunité à Loblaws à George Weston pour leur collaboration. Et pendant 2 ans, Loblaws fournissait au bureau de concurrence toute l'information nécessaire. Et c'est en 2017, en décembre 2017, que Galen Weston annonçait publiquement qu'il faisait partie d'un genre de cartel et puis offrait à tout le monde un certificat cadeau de 25 $.
Oui.
Il y a 3,8 millions de Canadiens qui ont appliqué pour obtenir ce 25 $-là, ce qui équivaut à peu près à 96 millions. Bon, quelques années plus tard, il y a beaucoup de monde qui croit que c'était passé. D'ailleurs, selon nos estimations, le cartel du pain a coûté aux Canadiens, écoutez bien ça, 5,4 milliards de dollars.
Oui, et on a okay? 500 millions en compensation.
Donc, c'est 5 fois le scandale de ça clique.
mais c'est payant pareil, là. Je veux dire.
C'est incroyable.
Donc là, tu
c'est incroyable. Fait que là, il y a eu des actions collectives un peu partout au pays, surtout en Ontario. Et puis, justement, on apprenait cette semaine qu'il y a eu un règlement en Ontario pour redistribuer. Dans le fond, 500 millions de dollars moins le 96 millions qui a déjà été donné
oui.
par les certificats cadeaux de 25 $. Donc, dans le fond, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que pour les Canadiens, on s'attend à recevoir 404 millions de dollars. Comment ça va être distribué, on ne sait pas encore.
Oui, mais là, l'autre chose, puis tu sais, quand tu es dans un cartel, habituellement, tu n'es pas tout seul.
Ouais,
là, les autres joueurs n'ont pas dit un mot. Moi, j'ai pas rien vu là, comme de quoi là, les autres joueurs qui auraient participé.
Ben, ils ont dit quelque chose. Ils ont nié tout.
Oui, mais le bureau de la concurrence qui a des preuves, lui, fait quoi, là?
Donc, pour rappeler aux gens quelles entreprises font partie de l'enquête là, du bureau de la concurrence qui dure depuis 10 ans passant, qui a commencé en 2015, qui dure encore, ça n'a aucun bon sens. Là. OK? Donc, il y a George Weston Bakeries qui a été vendu depuis, en passant. Il y a Canada Bread, qui a été vendu aussi au groupe Grupo Bimbo du Mexique. Mais ça appartenait à Maple Leaf Foods de 2001 à 2014. Au niveau du détail, il y a bien sûr Loblaws, qui a avoué sa culpabilité.
Et ses divisions, là, ses filiales là, partout au
c'est
Canada.
C'est ça, exactement. Mais il y a aussi Sobeys qui est accusé. Metro est accusé. Tigre Géant est accusé. Et Walmart est accusé. Les 4 autres entreprises ont nié tout. Mais l'enquête dure toujours, puis on sait toujours pas exactement ce qui se passe avec
les 4
entreprises.
Mais ça, c'est long pour le bureau de la concurrence. Je veux dire, s'il y en a un qui se couche puis te donne toute l'information, soit tu déposes des accusations, soit tu laisses traîner à longueur. C'est ce qu'ils font, là.
C'est pour ça que les gens sont sceptiques, sont frustrés par ce qui se passe. T'sais, actuellement, je suis... On parlait de collusion. Aux États-Unis, on n'y est pas avec la
porte. Non, ça prend quelques mois pour
Joe
c'est parti,
Biden, quand il était président. Ouais, Joe Biden, quand il était président, il avait décidé d'enclencher une enquête contre les transformateurs de bœuf. Donc Tyson, Cargill, ce groupe-là. Et puis GBS aussi, qui est du Brésil, qui a des entreprises, qui a des usines au Canada et aux États-Unis. On leur accusait de faire de la collusion et ils n'ont pas avoué leur culpabilité, mais ils ont écrit des chèques. Des millions de dollars ont été redistribués juste pour dire, bon, on ne veut pas avoir de la mauvaise publicité, mais ça a pris à peu près 3-4 mois du moment où Joe Biden annonçait l'enquête jusqu'au moment où les Américains recevaient des chèques.
Ouais,
c'est incroyable.
Oui, c'est ça. Donc, on va avoir... dans le cas du Québec, l'audience a lieu le 16 juin devant un juge de la Cour supérieure. Et c'est le cabinet LPC Avocats, c'est eux autres qui mènent le recours collectif. Et à partir de la décision du juge, là, on va pouvoir aller s'inscrire pour avoir notre montant d'argent. Là. Donc, c'est pas le temps.
C'est ça, exactement. Mais c'est à peu près 22 % du 404 millions de dollars.
Oui, à peu près 100
Donc,
millions qui vont
être disponibles. C'est presque 100 millions de dollars qui vont être redistribués aux Québécois, ce qui équivaut à peu près, pour chaque adulte, là, environ 15 dollars.
Oui, c'est ça. Mais il y en a qui ont déjà
eu... On va faire le party, mon cher Pierre.
Hey, on va s'acheter du pain. On va s'acheter du pain. Mais c'est quand... mais pense-y, Sylvain, là, quand tu dis, OK, il y avait un cartel du pain, ça veut dire qu'il y a des cartels dans à peu près n'importe quoi, mais on le sait pas?
Bien... En 2018, on était approché par le Bureau de la concurrence pour justement étudier le cas. On s'est fait demander par le Bureau de la concurrence, est-ce qu'un cartel qui inclut cette compagnie est possible au Canada? Puis on a regardé les prix, le comparement des prix sur 20 ans. T'sais. Puis on s'est aperçu que ce qu'on a dit au Bureau de la concurrence, c'est la chose suivante. On croit que c'est plausible qu'il y ait eu un cartel qui inclut les 7 entreprises visées, mais c'est impossible, impossible de mener un cartel sans Loblaws. Fait que c'est pour ça que Loblaws est très, très bruyant.
Ouais.
S'excuse, avoue sa culpabilité, parce qu'on sait très bien que, tu sais, Sobeys ne peut pas faire ce que Loblaws fait. Métro ne peut pas faire ce que Loblaws fait. Loblaws est une entreprise qui est hyper puissante.
Mais le pain appartenait aussi à George Weston, qui est la famille Weston détient Loblaws aussi, là.
Oui, effectivement. Mais là, c'est vendu depuis, là, c'est vendu. Okay. Puis dans le cas de Canada Bread, l'autre transformateur, parce qu'il faut comprendre que c'est un oligopole dans le pain, là, c'est un problème, là. Canada Bread appartient maintenant aux Mexicains, mais avant, ça appartenait à Maple Leaf Foods. Actuellement, il y a une poursuite entre les Mexicains et Maple Leaf Foods parce que lorsque Maple Leaf Foods a vendu Canada Bread, on n'avait pas dit qu'il y avait eu un cartel. Et puis depuis ce temps-là, le groupe mexicain a payé une amende record de 50 millions de dollars. Ça, c'est okay. En 2023.
Donc,
c'est le bordel total. Je sais que ça clique, c'est pire, là, mais c'est le bordel total pour ce qui est de ce qui se passe entre les entreprises, le Bureau de la concurrence puis le gouvernement.
Ouais, puis là, c'est du pain, là. Puis du pain, écoute, c'est 3 piastres. Le prix du pain, depuis un certain temps, il est moins cher, quoique des fois, on trouve
le
que
pain,
ça...
Le pain, ça représente à peu près 6 à 7 % de nos dépenses. Quand on va à l'épicerie, là, par année, un ménage va s'attendre à dépenser à peu près 6 à 7 % de son budget alimentaire sur du pain, là, de façon générale. Mais quand tu penses à la viande, 16-17 %. Puis la viande, là, il y a des rumeurs. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais dans le cas du bœuf, par exemple, le bœuf est plus achetable. Mais est-ce que c'est vraiment en raison du fait que, justement, le prix à la ferme augmente ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Il y a beaucoup de soupçons. Aux États-Unis, il y a eu un président d'entreprise qui est allé en prison parce qu'il a été pris à faire de la fixation de prix.
Ouais.
Il a été mis en prison pour 40 mois, puis il a payé une amende de 100 000 $. Ici, au Canada, on offre une immunité.
À celui qui se couche. À celui qui se couche pour donner toute l'information sur le cartel. Hein? C'est ça.
C'est vraiment une approche complètement différente. Fait que pourquoi qu'on n'a pas de compétition au Canada? Pourquoi qu'il n'y a personne qui vient au Canada? Parce qu'ils savent qu'une confrérie de joueurs qui se partagent l'information de façon, illégale.
Ben, c'est illégal. C'est illégal de faire... Mettons, là, tu travailles dans le secteur de la restauration rapide. Puis là, tu dis, moi, je vais faire une rencontre une fois par mois ou une fois par 2 mois avec toute la gang des propriétaires de restaurants. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Non, oui.
Tu n'as pas le droit.
Non,
tu partages absolument l'information clé sur le secteur puis c'est vu comme de la collusion.
Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que moi, ça me rend extrêmement mal à l'aise. Tu sais, Pierre, moi, tu sais, des profits, c'est correct là, de faire des profits,
ben oui, mais
de gérer une belle entreprise. Il y a de belles entreprises qui font de l'argent, puis tant mieux, parce qu'il faut faire de l'argent.
Mais c'est pour ça, moi aussi.
Mais faut suivre la loi, là.
Ben surtout la collusion. Fait qu'écoute, on a le pain, on va en avoir d'autres. Ben là, ça va être de notre Bureau de la concurrence si sont actifs.
Ben moi, je me souviens... Il y avait des journalistes qui m'appelaient en 2016-2017, puis ils me disaient, il y a des soupçons comme quoi le pain, il y a des problèmes avec le pain. Puis je dis, ben non, ça se peut pas qu'il y ait de la collusion au Canada. Puis on apprenait justement en 2017 qu'il y en avait.
Exact.
Puis depuis ce temps-là, là, j'ai des doutes. Là.
Ben
je regarde les autres catégories, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis sérieusement, les gens ont le droit d'avoir des doutes.
Oui, effectivement. Sylvain Charlebois, toujours un plaisir. Je te laisse aller. Le Texas, c'est quand même pas mauvais comme destination.
C'est pas mauvais, ouais. Mais en juillet, ça va être moins drôle, mais à l'automne puis en hiver, je vais apprécier.
Excellent. Ouais. Hey, salut, je te laisse. Bye-bye, merci beaucoup.
Salut.
Salut, bye.
Sylvain Charlebois, le food professeur que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes. Il y a un podcast en anglais. Sylvain est un Québécois, mais qui habite maintenant du côté d'Halifax, Dalhousie, l'Université Dalhousie. Mais il se promène partout dans le monde parce que c'est un chercheur, un universitaire reconnu. Et Sylvain nous parle comme ça chaque semaine sur l'industrie agroalimentaire. Et là, on parlait du cartel du pain. C'est incroyable, Nick. Tu sais, si il y a un cartel du pain.
Ben, imagine-tu, il y a un cartel sur bien d'autres choses.
Ben là, je sais pas. Donc, voilà.
J'achète plus de pain, moi. Fini.
Ah non, c'est bon du pain.
C'est bon. Mais faut faire attention. Y aller modérément, là.
Oui, oui.
C'est le pain, là.
Il y a du pain à ça, les keto, là. Il y a du pain aux amandes.
Ah, je sais pas.
Ah, il y a du pain, là.
Il y a du pain sans gluten.
À 10$ le pain.
Moi, j'achète un pain blé entier, là. Avec.
Des graines de lin.
Mais non, pas de graines de lin, mais du blé entier, là. Pas du pain blanc. Là.
Y a-tu quelque chose?
Écoute, ça vient de sortir parce que là, période de questions à l'Assemblée nationale, puis évidemment,
ben
ce qui fait jaser, c'est ça clique.
Ben oui.
Là, le ministre, la ministre Guilbeault, se fait brasser pas mal.
Ben, j'espère.
On dit qu'elle a reculé, là. Elle va reculer sur l'idée d'aller chercher les fonds de l'argent qui est dans la caisse de la SAAQ. Puis Marc Tanguay, lui, il dit qu'il faut absolument mettre la SAAQ sous tutelle.
Mais qu'est-ce qu'il faut
faire? François Legault s'occupe de la SAC parce que Geneviève Guilbeault s'en occupe pas. Il dit qu'il faut mettre ça sous tutelle immédiatement.
Ah oui, mais c'est parce que, regarde, Nick, qu'est-ce qui se passe qui va arriver? Là, ils vont monter les prix des plaques, puis ils vont montrer le prix de vos assurances.
Ça coûte déjà assez cher dans même.
Parce que vous avez une prime d'assurance. Quand vous payez vos plaques d'immatriculation, là, la fameuse...
Ah oui, on paye l'assurance.
La paillette, là.
Ah oui, bien ça, ils voulaient aller piger là-dedans.
Oui.
Là, on dit que Geneviève Guilbeault recule.
Ouais, elle recule de quoi? Elle, d'ailleurs, va falloir qu'elle témoigne là, à la commission Galant.
C'est épouvantable, cette histoire-là.
C'est pas fini. On va être à suivre.
Fait que bref, Marc Tanguay lui réclame vraiment la mise sous tutelle.
Oui, on regardera ça.
La SAAQ.
Après la pause, on ouvre les lignes.
Ouais.
Là, on y va avec quoi?
J'ai envie d'y aller sur l'histoire du troisième lien, Pierre, là. Parce qu'on dit que c'est encore un corridor à l'est qui est de mise, mais on va en apprendre plus d'ici le 21 juin.
Par Geneviève Guilbeault, d'ailleurs.
Justement, mais moi, je veux vous entendre sur le fait que de construire un troisième lien à Québec, ce serait de ruiner les finances publiques parce que, là, selon les experts...
Oui, c'est des gens de Montréal qui nous
disent
ça.
On a beaucoup plus de choses à rénover. Il faudrait rénover déjà nos deux ponts qu'on a là, mettre de l'argent là-dessus, nos écoles, nos hôpitaux.
Donc, on fait plus de ponts.
Québec n'a plus une scène, fait qu'il ne faut plus faire de ponts.
Plus de ponts, deux ponts collés un côté de l'autre avec un qui va tomber dans pas long.
De toute façon, la spécialiste Catherine Morancy, elle qui est professeure titulaire à Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire mobilité, elle a dit... qu'on devrait avoir honte de gaspiller des fonds pour étudier ou construire un tel projet parce que, selon elle, le futur de la mobilité, de la marchandise, c'est pas le camion. Le camion, ça, c'est désuet. On doit migrer vers le rail et le maritime.
Bah, c'est parfait.
Et que la mobilité des personnes, ben, c'est plus le véhicule privé.
Non.
C'est le transport en commun.
Explique ça au monde de la Rive-Sud.
Vous en pensez quoi? 88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture. Dans le mille.
Radio X. Les jours gros rabais sont arrivés chez Mondou. Épargnez 7$ sur la nourriture sèche Vet Diète pour chiens adultes de grande race. Jusqu'au 25 juin, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez le mondou.com.
Pour l'inspection ou l'installation d'un système de protection incendie résidentiel ou commercial, pour un gicleur, une borne fontaine privée, une alarme, un extincteur et tellement plus, c'est Prévention Incendie Inferno. Sur Facebook, Prévention Incendie Inferno Inc.
Vu chez Super C, des petites familles qui se demandent quoi apporter au feu de la Saint-Jean. Les Bédards ramassent des cerises à 2,44 la livre, les Tremblés prennent le fromage Petit Québec 400 grammes à 4,97, puis tout le monde choisit le beefsteak d'Aloyau Forme Econo à 8,88 la livre. Jean du panier, c'est à votre tour de vous laisser parler d'économie.
Bonne Saint-Jean, ma gang de vous autres!
Avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 25 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
C'est la grande vente vélo en folie chez Maniac Branché, une division de Maniac Moto. Plus de 350 vélos électriques en stock, garantis un an et les modèles 2023-2024 sont liquidés à partir de 800 $. Atelier de pièces et réparations sur place.
Place.
Maniaque branché à Montmagny.
Envie d'évasion? Après une journée à découvrir Portneuf, rendez-vous au complexe de villégiature Roquemont. Profitez de nos chambres avec piscine creusée ou de nos chalets avec spa privé situés sur les pistes de vélo de montagne de la vallée Bras-du-Nord. Réservez maintenant et épargnez 25% sur la deuxième nuitée en chambre ou obtenez la troisième nuit en chalet gratuite. Un petit creux? Direction la terrasse de la microbrasserie. Le meilleur endroit pour profiter de l'été, les pieds dans l'eau. Le Roquemont, 105 Grandes Lignes, Saint-Raymond.
Votre assureur invalidité refuse de vous indemniser malgré votre maladie? Chez Slogar, on est là pour vous et pour protéger vos intérêts. Soyez bien informés, bien accompagnés, bien représentés. Slogar.ca, première rencontre sans frais.
Golf Le Binière, l'excellence à prix abordable. Les fins de journée le week-end, ça se passe au Golf Le Binière. Du vendredi au dimanche après 15h, profitez de notre promo de golfeurs et voiturettes motorisées pour 95$, taxes incluses. Golf Le Binière, Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20 à 15 minutes des ponts.
Moi, l'été, j'arrête jamais. Faut tondre le gazon, nettoyer la piscine, prendre soin du jardin, des plates-bandes puis du chien qui s'est encore sali dans le jardin. La seule fois que j'arrête, c'est pour aller donner du sang. Puis ça, j'arrêterai jamais.
Trouvez une collecte de sang et prenez rendez-vous sur le site web d'Emma Québec.
Drain Québec, c'est la référence en drainage à Québec et Lévis. Inspection de caméras, nettoyage, excavation, réparation, ils ont la solution pour chaque problème d'humidité. Et en juin, nettoyage et inspection du drain de fondation à seulement $299. DrainQuébec.com.
Cette semaine, écoute le retour.
Vous pourrez gagner un certificat cadeau de $100 chez Homer's Boîte à Beignes. La grande ouverture de Homer's Boîte à Beignes a eu lieu le 20 juin. Homer's, c'est plus de 30 sortes de beignes fraîchement fait chaque jour. Viens découvrir pourquoi tout le monde en raffole. Homer's, c'est au 5560 Boulevard des Gradins, homersmtl.ca.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture.
C'est un habile communicateur.
Dans le mythe.
Très, très à l'aise.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
De la chance, comment allez-vous?
Ça va très, très bien. Et vous?
Oui, ça va bien.
Madame Morancy devrait savoir que le transport maritime, c'est ce qui pollue le plus, les bateaux.
Les bateaux et le rail.
Les trains aussi.
Non, mais je veux dire, t'as une compagnie, là, t'envoies...
C'est des gens qui sont complètement irréalistes. On l'a vu en fin de semaine, le pont de Québec était fermé. Il y avait des temps d'attente incroyables.
Non, c'est des heures. Stéphane Lachance, Respect citoyen, hier, vous avez écrit, au cours des derniers jours, vous avez écrit une lettre. Vous avez envoyé ça aux médias.
Exact.
Pour leur rappeler leur rôle dans la société, de faire leur travail, surtout qu'ils sont subventionnés, hein, souvent.
C'est un clin d'œil sympathique, tout simplement. C'était notre, d'ailleurs, je le salue en passant, c'est notre nouveau conseiller stratégique, Michel Poulin, qui a
trouvé. Mais pourquoi en arriver là?
Ben parce que, clairement, Pierre, on n'est pas présent dans certains médias, on est carrément boudé.
Mais pourquoi on est boudé? Parce que...
Ben, écoute, j'ai plusieurs...
Vous êtes un parti officiel reconnu?
Depuis le 4 juillet 2023, reconnu par le DGEQ. Je pense que... C'est sûr que Chouin nous a donné notre première chance. Je pense que peut-être parmi vos collègues, je vais parler au niveau de vos collègues, au niveau de la radiodiffusion, peut-être qu'on associe Respect citoyen comme étant le parti municipal de Chouin, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'ici, je fais face à plusieurs animateurs qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord.
De toute façon, il y a bien du monde qui sont passés ici en politique. Puis quand là, ils tombent au pouvoir, là,
ils viennent plus.
Ils viennent plus. Puis tout ce qu'ils ont dit ici en ondes, ils font le contraire.
Mais c'est ça. Alors donc, ça au niveau, il y en a pour certains que c'est ça. Peut-être le fait aussi qu'on soit un parti qui est contre le tramway, mais on ne fait pas partie de la gang. Ça peut être aussi.
Attends une minute, là. T'es un média d'information. Tu dois relayer.
Ouais, je sais bien.
Et seulement, non seulement ça, ils sont tous subventionnés. Ils ont accès aux crédits d'impôt. Mm-hmm. Les journalistes de la presse écrite ont accès à des crédits d'impôt. Là, je sais qu'au niveau de l'électronique, on veut avoir accès à des crédits d'impôt. Dans le cas de Radio-Canada, ils sont subventionnés à 100 %. Mm-hmm. Ils n'ont pas à jouer cette game-là. Là, vous leur rappelez, là.
On leur rappelle à ce niveau-là, puis c'est un clin d'œil sympathique en tant que tel. Mais je le fais. Écoutez, ce que j'ai fait au niveau de la lettre...
Y a-tu des retombées? Là?
Absolument. Les gens de chez Novo, Mathieu Boivin, on a une entrevue vendredi.
Ah, ben,
le journal du quartier, le Carrefour, a fait une entrevue téléphonique avec moi, puis a fait paraître un article. Et j'ai eu aussi un téléphone de Radio-Canada.
Wow!
J'identifierais pas j'étais bien content. D'ailleurs, le journaliste était très surpris de ma rapidité de réponse par rapport entre le moment où il a... mentionné vouloir me parler, je l'ai rappelé. Mais je pensais...
Il y a de l'ouverture?
Ben, il y avait de l'ouverture, mais sur des sujets privés qui concernaient absolument pas Respect Citoyen, mais qui me concernaient personnellement.
Ah, OK. Ouais. Là, ils sont dans une petite guerre.
Ouais, c'est ça. Ils ont fait un petit ça. Mais j'ai donné les réponses. Puis d'ailleurs, à la fin de l'entrevue, entre guillemets, il m'a dit, ben, je vous remercie pour votre transparence parce que j'ai absolument rien
à dire. Non, mais Radio-Canada, là, je veux dire, c'est gênant, là.
Ben, écoute. Je veux dire, moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est que je pense pas que c'est le rôle des médias d'orienter le débat.
On
l'a vu au fédéral. Ouais,
mais depuis plusieurs années, le débat est aligné. Là. Je veux dire, on l'a vu avec Biden, comment ils ont couvert Biden.
Oui.
Puis ils ont fait à croire que Biden n'était pas sénile. Puis on voyait les tapes, on le disait. Il y avait ses réseaux sociaux, c'était ça. C'était,
il partait dans une direction, il fallait qu'il marche dans l'autre.
Puis quand tu arrivais dans leur média, puis tu leur disais que Biden était sénile, ils te traitaient de coucou.
Écoute, parce que moi, ce que j'ai fait par ça, puis ça s'applique à n'importe quel parti politique, là, peu importe le municipal, provincial, fédéral. Donc, j'ai fait un petit rappel, un clin d'œil, puis...
Mais j'espère, en tout cas, qu'il va avoir...
Mais je pense que oui, parce que ça a fait réagir, puis bravo. On va continuer à ce niveau-là.
Saint-Roch.
Oui.
Hey, c'est pas drôle, là. Oui. On a mis 2 millions au mois de mars. On rajoute 1 million pour les commerçants, parce que les commerçants, là, un matin, dans le show de Montréal, on avait une commerçante de Saint-Roch. Elle a dit, écoute, ça ne changera absolument rien.
Mais elle a raison.
Il faut s'occuper des sans-abri.
Ben, il faut s'occuper des sans-abri, mais ce que je veux dire, c'est que premièrement, c'est une mesure qui est carrément électoraliste. Je veux dire, le maire Marchand se sert de l'argent de la ville pour mousser sa formation politique en vue des élections du 2 novembre prochain. Un million, je veux dire, c'est
non, on donne de l'argent. Ouais, mais on donne de l'argent aux commerçants.
Oui, je sais, mais le problème à Saint-Roch, au départ, c'est que ça prend des clients. Puis des clients, si on veut des clients, ça prend des stationnements. Il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas de clients.
Mais on a coupé des voies.
On a coupé des choses. Puis, tu sais, nous, on a déjà proposé en tant que tel que le jeudi, vendredi, puis le samedi, là, que le stationnement, exemple, jeudi, vendredi, de 16h à 21h.
Mais moi, c'est ça que je ferais. Je donnerais du stationnement gratuit.
C'est des raisons gratuites. C'est des raisons pratico-pratiques, très faciles à appliquer. Puis, ça prend aussi de la sécurité. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans ce coin-là parce qu'ils ne se sentent pas sécures. Et moi, j'ai fait une sortie là-dessus. D'ailleurs, Émilie Pelletier l'a couvert du soleil cette fin de semaine et je l'en remercie. J'ai dit que je voulais redonner au corps de police de la Ville de Québec les moyens de faire en sorte de faire que la Ville de Québec soit sécuritaire. Moi, je veux que les femmes puissent sortir à 21h le soir faire du jogging sans avoir une pensée de dire « Est-ce que c'est risqué que je sorte à 21h? »
Dans Saint-Roch, je te dirais que...
Il y a du travail à faire. On s'entend là-dessus.
Va un petit peu plus loin. Dans Limoilou, oui.
Mais donner de l'argent comme ça, c'est complètement... Ça change quoi pour le commerçant qui, à chaque matin, qui ouvre son commerce, qui a des défécations devant sa porte de travail? Ça donne absolument rien. Donc, ce que ça prend, c'est d'améliorer la sécurité. Puis ça, c'est un enjeu primordial pour Respect Citoyen et Stéphane Lachance. C'est aussi de faire en sorte qu'on amène des clients par des mesures comme, justement, de faciliter le stationnement dans le secteur. Donc ça, c'est des mesures...
Oui, mais là, il faut changer la signalisation parce qu'on a fait des one-way.
Oh oui.
Moi, je me retrouve plus dans ce quartier-là. Je vois plus, là.
Puis tu l'as côtoyé quand tu travaillais
là. J'ai travaillé là 10 ans de temps.
Exactement. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Puis de faire en sorte aussi que... Mais le sentiment de sécurité, il est important. Il faut que les gens... La patrouille, moi, personnellement, la patrouille policière, à pied, je pense que ça doit revenir. Il y en a un petit peu, il semblerait, de jour, mais de soir, il n'y en a pas du tout.
L'OQLF, là, l'Office québécois de la langue française, ils ont des bureaux là.
Oui.
Eux autres, ils ont embauché des gardiens de sécurité pour accompagner les employés qui arrivent.
Il n'y a pas juste eux autres.
Et qui sortent parce que les gens ont peur.
Oui, j'ai une bénévole dans mon équipe là, de Respect Citoyen qui travaille pour le gouvernement du Québec. Puis même chose, ils sont obligés de se faire accompagner par un agent de sécurité jusqu'à leur voiture pour être sûr que tout est correct. Donc, il faut ramener un sentiment... Avant de commencer à garrocher de l'argent, il faut ramener un sentiment de sécurité. Il faut ramener aussi des clients. Puis il faut aussi faire, actuellement, dans ce quartier-là, bon, on le sait, là, il y a des gens qui l'appellent malheureusement Plywood City. Là.
Mais c'était le terme qu'on donnait à Saint-Roch à l'époque, avant l'Allier, là, avant qu'on fasse la relance.
Mais ce qui est déplorable là-dedans, c'est que cette situation-là a été provoquée par les décisions complètement irresponsables de l'administration Marchand depuis 4 ans. C'est eux qui ont causé la dégradation de Saint-Roch. Puis là, maintenant, à la dernière minute, ils garochent de l'argent pour essayer de pallier à la situation. Moi, ce que je dis, c'est qu'en plus des locaux commerciaux présentement qui sont libres, avec tout l'aspect du télétravail...
Moi, je pense que le télétravail a beaucoup nuit.
Ben oui.
Parce que... Si t'as un quartier puis les gens descendent dans la rue le matin, midi, le soir, en soirée, c'est vivant. Là, on a enlevé toute cette vitalité-là. Les gens restent à leur domicile, travaillent en télétravail.
Alors, pourquoi pas offrir aux promoteurs immobiliers qui sont propriétaires des locaux vides la possibilité de les transformer en logements? Alors, à ce moment-là, on amènerait de la vie supplémentaire, mais pour amener des logements puis pour amener des gens qui seraient intéressés à aller s'établir là-bas, ben il faut rendre le quartier sécuritaire puis attrayant.
Les itinérants, on fait quoi?
Ben, les itinérants, là, une chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, 80 % du travail des policiers, c'est de faire justement de la gestion de gens qui sont en itinérance ou en problème de santé mentale. Nous, notre plateforme, qu'on va présenter le 11 juin prochain, on va introduire en tant que telle une équipe qui va venir intervenir pour venir soulager les policiers de tout l'aspect psychologique d'intervenant. Tu sais, les policiers, là, oui, ils ont dans leur formation, ils ont une partie, là, où ils traitent cet aspect-là, mais c'est pas des spécialistes en intervention. Alors, est-ce qu'on va encore avoir besoin des policiers? Oui, je pense que dans certaines situations, quand on a une personne qui est pas stable en tant que telle, on a besoin d'un certain degré de sécurité. Mais c'est pas le travail des policiers de toujours faire de la psychologie avec ces gens-là. Donc, on va mettre des gens sur le terrain qui sont spécialisés dans ce domaine-là, puis qui vont intervenir, puis qui vont permettre de vraiment de faire respirer le quartier puis d'alléger la situation qu'on vit présentement qui est très lourde.
Ça revient beaucoup par la messagerie également concernant l'itinérance parce que c'est une communauté hein, qui s'est un peu établie à l'église pas loin de Saint-Joseph. Puis c'est pas évident nécessairement de déplacer ces gens-là parce qu'il y a des ressources qui sont dans le coin aussi. Là.
Non, mais c'est ça. Mais il faut commencer à leur offrir différentes options puis de leur envoyer des gens sur le terrain qui parlent le même langage qu'eux. T'sais, c'est sûr que si tu vas vers ces gens-là puis tu les confrontes, je le sais. Puis d'ailleurs, j'écoutais justement, tu as fait référence à la dame de champagne chocolatier qui était dans l'émission votre collègue ce matin. Moi, il y a deux ans, Respect citoyen, on a servi 325 repas sur le parvis de l'église Saint-Roch en tant que tel. Puis à la fin de notre activité, là, il y a une dame là qui est en situation d'itinérance qui a comme disjoncté là, à un moment donné. Là, puis on a dû intervenir, mais de façon pacifique.
Non, mais imagine, là, c'est une intervention, puis il y a du monde qui disjoncte.
Oui.
Les autres, c'est à l'année. Là.
C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça prend des spécialistes, ça prend des gens qui sont formés pour ça. Puis ça va permettre en même temps de dégager nos policiers qui sont vraiment actuellement là, embourbés dans ça. Puis aussi, on parle de l'aspect sécurité dans Saint-Roch, mais moi, personnellement, je considère quand même que depuis les 4 dernières années, il y a eu malheureusement une dégradation au niveau du niveau de sécurité à Québec. Et ça, c'est pas de la faute de notre corps de police, qui est un excellent corps de police. Moi, j'ai eu beaucoup à faire avec ces gens-là dans toutes les manifestations.
Eux disent quoi, les policiers, quand
ils manquent de ressources, manquent de moyens. C'est tout simplement. Là, cet automne, le maire Marchand s'est engagé à engager plus de policiers.
Ouais.
Mais nous, l'engagement que je prends face à eux, c'est de leur donner tous les outils puis les ressources pour faire en sorte qu'ils puissent faire un bon travail. Les gangs de rue qui sont venus de Montréal, principalement de Laval, qui sont venus s'établir ici, si on aurait eu plus de ressources, on aurait pu leur dire « c'est pas votre place ici ». Puis de faire en sorte de les contrôler.
Mais je vois la police très active. Là.
Je dis pas qu'ils font pas un bon travail.
On fait des frappes, là,
oui,
de prévention.
Mais on doit leur donner les moyens. Puis ça, c'est l'engagement que je prends, de mettre en place tous les moyens puis les ressources qui sont nécessaires pour faire que Québec soit une ville sécuritaire. Puis moi, mon objectif, puis je le dis de façon générale, c'est qu'une femme qui décide de sortir à 21h pour faire du jogging, elle se casse pas la tête en disant « est-ce que c'est risqué ou est-ce que je suis correct? » C'est important pour moi. Puis ça, ça fait partie en tant que telle de l'image de Québec, qui est une ville sécuritaire.
Logement,
ça,
on fait quoi avec les logements? Là, on a annoncé 18 projets, vite, fast track, là.
Ouais.
À quoi, quelques mois des élections?
Mais c'est encore là, je veux dire, c'est du patchage, là. On fait du patchage, là, en fonction de l'élection du
2 novembre
prochain.
Qu'est-ce qu'on ferait de différent, votre organisation, votre administration? Je veux dire, là, on parle avec des promoteurs, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avoir un permis pour aller faire une tour d'habitation. Ça n'a aucun sens.
Dans notre plateforme qu'on va déposer le 11 juin, nous, on veut réduire les temps d'attente au niveau des permis. Le but visé, là, c'est 10 semaines.
10 semaines. 10 semaines. Entre la demande de permis.
Puis l'obtention du permis.
Okay.
10 semaines. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Je tiens à rappeler quand même que l'année passée, le maire se pétait les bretelles en disant qu'il y avait eu un record avec 929 mises en chantier en tant que telles. Mais sur le 929, il y en avait moins de 200 qui étaient du logement social. Donc, il faut penser à tout le monde. Je veux dire, tu sais, le problème aussi du vieux Colisée. Le vieux Colisée, là...
Hey, ça fait longtemps que ça niaise, ça fait 10 ans.
Ça, faut donner ça à un promoteur. Donc, on donne ça à un promoteur qui va s'occuper de le déconstruire dans...
J'ai ça.
C'est ça, exactement. Puis c'est un excellent coin, je pense, c'est pour faire du logement social dans ce coin-là.
Ben, social et autre, là.
Social et autre, mais je veux dire, entre autres, là, tu sais, ça prend du logement social à Québec, faut être conscient de ça. C'est pas tout le monde qui peut se payer des ce qu'on appelle des condos locatifs à 2 500, 3 000 par mois. Ça prend des logements qui sont quand même abordables pour des gens. Puis ça, on l'entend souvent de la part des gens qui viennent nous rencontrer dans nos assemblées.
Des gens dans Saint-Roch, entre autres Mme Deschaines qui est venue ce matin, qui disait que les locaux qui sont vides dans Saint-Roch pourraient éventuellement devenir des logements. C'est une bonne idée, ça?
Oui, absolument. Mais c'est ce que je dis. Je pense que c'est ces locaux-là.
Si tu es propriétaire d'un local commercial, tu sais comment ça rapporte par rapport à un local logement, là?
Oui, mais je pense qu'à ce moment-là, au lieu de garrocher des millions comme ça, peut-être qu'on pourrait faire des incitatifs. Là je veux pas m'engager dans des choses que mon comité économique va me chicaner, là. Mais il y a moyen de faire des incitatifs pour peut-être. C'est parce qu'à un moment donné, là, il y a trop de locaux commerciaux, là. Dans Place Diouville aussi, là, il y a beaucoup de bâtisses actuellement qui sont occupées par des ministères qui vont être bientôt, là, délaissées parce que le gouvernement a décidé de rapatrier ces gens-là. Ben, encore là, il va y avoir d'autres locaux.
Des conversions.
C'est un peu la même chose que les frères Trudel font présentement, je dis à Fleur-de-Lys. Je veux dire, on a récupéré un espace, puis on en fait des tours d'habitation. Oui. On veut faire la même chose à Charlebourg, on veut faire la même chose à Quatre-Bourgeois.
L'îlot d'Orchester, c'en est un, ça.
Ben, l'îlot d'Orchester, moi, je l'ai dit en tant que tel. Je comprends là, les gens, mais je veux dire, on est en plein centre-ville de Québec. Les frères Trudel qui proposent une bâtisse de 17 étages, les gens disaient que ça devrait pas dépasser 7-8. On est au centre-ville, on est à côté d'autres bâtisses. Je veux dire, si les gens de New York auraient pensé comme ça, on serait pas rendu où on est rendu présentement sur l'île de New York. Là.
RTC.
RTC.
Grève.
Oui.
Et là, on fait quoi avec ça?
Ben, l'RTC, là, je veux dire, à un moment donné, on fait quoi avec ça? L'RTC, je le dis depuis le début, nous, c'est la tutelle, c'est la réorganisation. On doit, en tant que tel, refaire les devoirs de A à Z. Un audit complet. Puis ce matin, j'écoutais encore là, je vais faire référence à votre collègue qui a présenté... le futur projet là, de mon adversaire, l'ancien ministre libéral, qui veut aller vers un SRB, je veux dire, basé sur un projet de Brisbane. Je veux dire, actuellement, soyons logiques, là. Actuellement, le RTC n'est même pas capable de gérer un stand à hot dog. Là. Fait qu'on va-tu leur donner un projet d'un milliard à gérer? Sérieusement? Voyons donc, la première des choses, c'est de faire le ménage, de faire en sorte que cette entité-là fonctionne.
C'est par étapes, là. Faut y aller par étapes,
nommer un nouveau directeur général qui va avoir conscience du travail qu'il y a à faire.
Avec un mandat clair.
Faire un audit, s'assurer en tant que tel qu'on a les bonnes personnes pour faire le travail. Après ça, de faire en sorte que le système lui-même fonctionne. Ce matin, j'entendais, moi, il y a 2 ans, j'ai suggéré quelque chose qui coûterait encore beaucoup moins cher, partir, en utilisant la voie ferrée actuelle, partir de Shannon, puis Shannon, Val-Bélair, Legendre, jusqu'à la gare de train de Québec. Je veux dire, on serait capable de faire ce qu'ils font présentement sur la rive sud de Montréal avec les trains de banlieue. Les infrastructures sont là. Ça se coûterait encore moins cher, puis on serait capable de rapatrier les gens. Donc, de commencer à arriver... Tu sais, avant de commencer à proposer un autre service, on va s'assurer que le service actuel, il est correct.
Mais semble qu'on tourne en rond là, depuis 25 ans là, dans la région de Québec.
On tourne en rond. Je voudrais quand même mentionner là, que lors des audits du BAP en juillet 2020, le Doris Chabot de Québec mérite mieux, que vous connaissez, puis Charles Larochelle, il avait proposé exactement le même projet au niveau des autobus sans rail, sans fil, puis ça avait été proposé au BAP en tant que tel. Si on l'aurait fait, là, ben, actuellement, ça serait probablement en fonction. Alors, ce que je dis de façon en résumé... Commençons par faire le ménage au RTC. Faisons en sorte que ça fonctionne. Puis après ça, on pourra regarder ce qui sera possible de faire.
N'oublions pas qu'on a CDPQ infra dans le décor. Là.
Aussi.
Eux autres, ils sont là qu'ils sont pas tassables.
Ben, ils sont pas tassables, mais eux autres, ils ont un engagement avec le gouvernement. Ils n'ont pas un engagement avec la Ville de Québec. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, il est impossible. Il faut que les gens comprennent que le 2 novembre prochain, c'est votre dernière chance d'arrêter le tramway. Si vous votez pour un parti qui est pour le tramway, vous allez l'avoir. Et là, ça va être la... Tu me parlais tout à l'heure de Mme Morancy qui parlait de la catastrophe si c'était un troisième lien. Ça va être bien plus une catastrophe avec le tramway que ça pourrait être avec le troisième lien. Donc, le 2 novembre, on doit arrêter ce projet-là. C'est une priorité à ce niveau-là. Puis par la suite, on va faire une restructuration de la ville au complet au niveau des fonctions, puis de faire en sorte que cette ville-là fonctionne, puis que les gens soient fiers de leur ville.
Rapidement, c'est parce que je veux te faire entendre, sa maman était de passage dans nos studios la semaine dernière, en fait, puis disait que Claude Villeneuve et toi-même, Stéphane Lachance, vous faisiez pitié, je veux te le faire entendre.
Perte de temps, pauvre petit, il fait pitié comme l'autre, là. Villeneuve, c'est deux qui font pitié, ont besoin d'attention.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, faire pitié?
Ben, ils font pitié, ont besoin d'attention, ont besoin de reconnaissance. Puis, au lieu, comme là, M. Villeneuve, là, il doit s'occuper de son caucus en premier.
Oui. Démontrer capable de gérer. Ouais, tu réponds quoi à ça?
Ben, moi, j'ai 1025 membres, là, qui me disent pas que je fais pitié, là, premièrement. Fait que je sais pas combien M. Hamad a de membres, parce que, à ce que je sache, je pense qu'il y en a même pas. Alors, moi, j'en ai 1025. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est quand M. Hamad nous arrive avec son futur projet d'SRB, puis M. Hamad, c'est clair qu'il nous a dit qu'il y allait pour un seul mandat en 4 ans. Est-ce que vous pensez réellement qu'on est capable d'arriver avec un projet, d'aller en appel d'offres, de faire les plans, d'aller choisir les gens qui vont construire tout ça et que tout ça peut se faire en 4 ans fonctionnel? Ça, c'est de la pensée magique.
Dans le cas du tramway, les appels d'offres sont pas lancés, là.
Non plus. Puis ça, on n'a pas de financement du fédéral.
On parle de quoi, le 2...
27, au début, là?
Ouais, début des travaux.
Début des travaux, là.
Ouais, mais on parle d'une mise en service, quoi, 2032, 2033.
C'est au-dessus.
Même 2036.
Je pense que c'est 2036.
Imagines-tu 2036?
On
va être en retraite.
Le projet de tramway, ça fait trop longtemps qu'on a perdu du temps là-dessus, puis on a perdu trop d'argent.
Mais il aurait dû faire une première phase, puis de montrer aux gens que c'était sérieux.
Mais
ils veulent des grosses phases de 20 km qui vont coûter 15 milliards.
Ouais, mais je vous ai regardé déjà les problèmes qu'on a présentement sur Saint-Vallier. Ils ont commencé la deuxième partie là, du travail. J'aimerais ça aller questionner les commerçants actuellement, comment ça va au niveau de la business.
Ben hier, on a eu des gens qui nous ont appelés, puis c'était pas trippant.
Ben, c'est ça, exactement. Alors, il faut être responsable. Je rappelle, si tu me le permets en terminant,
oui,
que demain, c'est notre cocktail bénéfice à l'Hôtel Plaza. On est très contents parce qu'on est obligé de changer de salle pour une plus grande salle en fonction des gens qui vont être présents.
Donc, il y a des gens qui
absolument.
S'intéressent à la chose.
Oui. Alors, on invite les gens, vous allez sur le site internet de respectcitoyen.org, vous avez l'onglet pour vous inscrire. C'est ouvert à tous, alors on espère que vous allez être nombreux, mais on a une plus grande salle, la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza qui va être mise à notre disposition, donc on est très, très heureux de ça.
Stéphane Lachance, Respect Citoyen, merci beaucoup. Après la pause, Sylvain Charlebois, le food professeur, débarque dans le show.
Couture dans le mythe.
Radio X.
Cet été, retrouve ton concept estival préféré. La cour arrière au parc du Rigolet à Lévis et nouvellement au Grand Marché de Québec. Avec tous ses classiques. Bassins rafraîchissants, musique live, cocktails et bières de micro, soirées d'humour et plus. La cour arrière à Québec et Lévis. Soins santé GC, c'est vos cliniques d'infirmières privées à Québec. Prise de sang, suivi de grossesse, santé voyage, vaccination, bilan de santé, dépistage et traitement de streptocoque, otite, ITSS et plus. Ouvert dès 6h le matin et en soirée. Soinssantégc.com.
Pour un projet de fondation clé en main, fourniture de béton ou concassage, Béton Laurier est votre partenaire depuis 63 ans. Que vous soyez résidentiel, commercial ou industriel, nous offrons également un service de grue ainsi que du transport par fardier. Béton Laurier, c'est plus que du béton. BétonLaurier.com.
Chez Limaco, on a une cour à bois pleine de cèdres de toutes les dimensions pour tous les goûts. T'as une pergola, un patio, une clôture à construire et tu veux du solide qui va durer dans le temps? Pense aux cèdres de chez Limaco, le meilleur inventaire de bois et de composites au meilleur prix. Limaco.ca.
La capsule vélo, présentée par Mathieu Performance, votre spécialiste vélo à Québec, MathieuPerformance.com.
Débuter la saison du bon pied, ce n'est pas juste sortir son vélo du cabanon. C'est aussi vérifier la pression des pneus, nettoyer et lubrifier la chaîne et plein d'autres choses. Pour bien faire, on laisse son vélo à l'atelier pour une mise au point ou on achète des produits et des outils pour le faire soi-même.
Vélo de montagne, de route, électrique, le plus grand choix de vélo et d'accessoires. Mathieu Performance, maintenant 3 boutiques, Québec, Lévis et Saint-Augustin. MathieuPerformance.com.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins Ford.
En juin, embarquez dans la vague électrique avec Desjardins Ford. Le F-150 Lightning 2025 vous est offert jusqu'à 12 000 $ de rabais. Gâtez-vous aussi avec la Mach-E 2024 et épargnez jusqu'à 20 000 $ incluant le programme Roulez Vert. Détails en concession, tout ça et bien plus chez Desjardins Ford.
À Québec, un Ford, ça se
branche
chez Desjardins Ford.
Choix.
Choix. Hell yeah!
98.
98.
1.
La fameuse originale.
Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix.
Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mythe. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Bon, ben là, c'est la rencontre des premiers ministres à Saskatoon. Et là, François Legault dit un pipeline au Québec. On doit analyser ça.
Bon,
on analysera. Ça fait des années qu'on analyse, on continuera d'analyser tout ça.
OK.
Voilà.
Mon analyse.
Ouais. Notre invitée, elle est là.
Oui.
Criminologue Maria Mourani. Comment vas-tu, Maria?
Ça va bien. Bonjour à tout le monde.
Ben oui, écoute, dans nos prisons, comment ça va? Toi, t'as quand même des sons de cloche, hein? Tu jases avec beaucoup de monde et ce qu'on entend, c'est pas chic, là, ce qui se passe dans nos prisons.
Non, c'est sûr. Bon, il y a des améliorations parfois, là, mais oui. Bon... écoute, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je sais que le ministre va faire des annonces comme quoi il y a des nouvelles technologies qui vont être mises en place et tout.
Ouais, Bonnardel, le ministre Bonnardel l'a fait la semaine dernière, a annoncé, là, De la techno. Là. On ne comprenait pas trop ce qu'ils disaient, mais ouais. En fait...
Ben, j'ai vu passer le communiqué, puis ça m'a intriguée. Là, je suis allée un peu... j'ai fouillé un petit peu, j'ai, disons, parlé un petit peu.
Oui, avec tes contacts.
Puis, puis j'étais étonnée, je pensais que c'était, par exemple, au centre de détention de Québec, là, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais vous savez, le fameux radar de drone, là,
ouais.
pour détecter
ça
les
fonctionne,
drones.
Hein? Ça fonctionne super bien, qu'on nous dit.
J'adore votre sarcasme. Ben, en tout cas, non seulement il ne fonctionne pas, mais il est arrêté, là, le...
Ouais,
c'est incroyable. Le nouveau détecteur de drones, ce sont les agents correctionnels avec leurs jumelles là, qui essayent de regarder ça, d'où ça vient. Puis moi, je suis très intriguée de savoir combien ça nous a coûté cette affaire-là. Là, parce que je suis sûre que ça nous a coûté cher pour rien. Là.
Ouais, puis c'est des gros contrats qu'on donne là, à des grosses compagnies, c'est supposé
ouais,
marcher.
Des compagnies américaines en plus. Hein.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'insulte le plus, là, c'est que ça a été donné... Ben, à une compagnie soi-disant canadienne, mais qui est en fait une compagnie américaine, parce que ce sont des Américains qui ont débarqué chez nous pour nous dire comment ça fonctionne. Là. Donc, on comprend que la compagnie canadienne, elle n'était qu'une espèce de...
Une division, ouais.
Je sais pas, une succursale ou une division, mais ils n'avaient même pas l'expertise pour que les gens viennent des États-Unis pour ça. Par contre, oui, à mon avis, je pense que l'annonce qu'il va faire, c'est qu'il y a finalement un body scan à l'entrée. C'est-à-dire que, tu sais, ce qu'on a dans les aéroports,
oui.
là, qui existe depuis belle lurette, là.
Il n'y avait pas ça dans les prisons?
Non, il n'y avait pas ça, en tout cas, au centre de Québec, là, à l'établissement de détention de Québec. Là, puis là, finalement, ils leur ont mis ça. Je pense que c'est ça qu'il va annoncer. Mais bon... La situation, là, c'est pas juste à Québec. Je parlais récemment avec plusieurs contacts dans les pénitenciers fédéraux, là. Puis c'est le même cafouillage avec les drones. Là, par contre, ils sont mieux équipés, faut le dire. Ça, quand même, ils ont des vestes contre les pics.
Oui.
Il y a les vestes par balles, mais t'as des vestes aussi... pour les pics.
Les pics artisanaux,
ça,
là. Ouais,
les pics, là. Les gars, ils fabriquent des pics, là. Même l'imagination, je sais pas d'où ils trouvent ça, ils fabriquent des pics avec n'importe quoi.
Mais quand t'as du temps dedans, là, ça a l'air que l'imagination, ça vient tout seul, là.
Ça vient tout seul, c'est ça. Puis au fond, ils ont ça quand même. Moi, je pense que ceux de Québec, ils l'ont pas. C'est quand même assez hallucinant que... du matériel quand même
de
base là. Puis même les agents au fédéral, ils ont du poivre de Cayenne sur les passerelles par exemple dans les sécurités maximum sur les passerelles, ils ont des armes de poivre de Cayenne là, c'est-à-dire qui vaporisent un peu comme des extincteurs là.
Ouais.
Puis c'est du poivre de Cayenne. Donc ils sont quand même relativement mieux équipés. Même si la drogue rentre à profusion, même si les pics en veux-tu, en voilà, le problème actuellement que je constate quand je parle avec toutes mes sources, c'est qu'ils ont comme un petit peu, le sentiment qu'ils ont, c'est qu'ils ont comme un petit peu perdu le contrôle. Au fédéral, ils sentent que les détenus ont beaucoup trop de droits, qui fait en sorte qu'il y a tellement de plaintes qui sont faites que la direction, les directions des pénitenciers ont tellement peur des plaintes que c'est rendu qu'ils ne ils peuvent pas faire grand-chose sans qu'il y ait des plaintes. Donc, cette espèce d'escalade des plaintes fait en sorte que les agents, eux, ne se sentent pas baqués dans leur travail. Alors, ça c'est l'impression, c'est leur sentiment à eux, là. Bon, en même temps, il faut savoir qu'on vit dans une société de droit. Et donc, oui, les détenus ont des droits, même si ce sont des détenus puis qui sont incarcérés. Là, il y a des droits minimaux. Là,
Ben, le niveau de vie...
Mais il faut faire l'équilibre.
Ouais.
Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait des droits ou pas de droits. Le problème, c'est quand il y a un déséquilibre entre le droit et le devoir, entre les droits et les devoirs et les responsabilités. C'est là que le bordel pogne, en fait. C'est là que le système fonctionne plus comme il doit fonctionner. mais le déséquilibre.
Ouais, mais le niveau de vie des prisonniers, si tu regardes là, dans les prisons fédérales ou provinciales depuis les 30 dernières années, ça s'est amélioré beaucoup, là.
Oui, quand même. Oui,
parce qu'on entendait des histoires dans les années 80, même en bas de 70, c'était pas drôle, là.
Ah non, 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 tout à fait. Puis quand je parle avec autant des vieux de la vieille, me raconte comment ça se passait dans leur temps, là, t'as tout à fait raison. C'était assez rough. Par contre, actuellement, c'est aussi rough. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ce qui est rough, c'est la vie entre les détenus. Oui. Là, avant, là, les détenus, là, ça parlait pas aux agents. Ça parlait pas. Il y avait comme des présidents de wing, si tu veux, des présidents d'unité, là, mm-hmm. qui étaient habituellement des gars qui runnaient la wing, hein, des gars plus forts, plus de réputation.
Des vétérans, aussi des gars qui sont là depuis longtemps. Là.
Ouais. Alors, ces gars-là, c'est un petit peu l'intermédiaire avec les agents. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, ça amène un certain chaos, mais en même temps, ça amène que les gars parlent plus aux agents parce qu'ils vont. Il n'y a plus d'intermédiaires. Ben, c'est pas qu'il n'y en a plus du tout. Il y en a beaucoup moins. Donc, on voit que, quand même, ça parle un peu plus parce que je dois demander ce que j'ai besoin de demander. Hein? Puis, au fédéral, il y a des requêtes. Ils doivent y mettre des requêtes, même au provincial. Hein? Ils font des requêtes et tout. Puis, l'ambiance n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on serait passé d'un climat où il y avait comme une espèce d'équilibre avant. C'est bizarre à dire, hein. C'était rough, mais
il y avait de l'ordre. Il y avait,
il y avait moins de chaos.
Ouais, c'est ça.
Puis maintenant, ce que les gars ils disent, c'est qu'il y a plus de chaos, il y a un déséquilibre, mais c'est moins rough entre les agents puis les détenus. Mais c'est plus rough entre les détenus.
Entre eux autres. Oui, il y a des gangs, hein. Il y a des gangs maintenant. Tu sais, t'avais les Hells, puis à l'époque, t'avais les Rock Machine. Et là, t'as des gangs de rue à travers qui viennent jouer des gros bras à travers là-dedans. Là.
Oui, mais en même temps, faut pas oublier, c'est que ces gars-là, que ce soit des gars de gang ou des gars ou des Hells, sont tous les deux, c'est toutes deux catégories qui sont. Disons, pas facile à gérer en dedans.
Ouais.
Mais la différence, c'est que les Hells, ils ont comme une structure, ils sont plus structurés, c'est-à-dire il y a des hiérarchies. Alors que donc, c'est plus facile à gérer en dedans, des Hells, OK? C'est pas parce qu'ils sont plus gentils, hein, ils sont tout aussi dangereux. La seule différence, c'est qu'eux sont plus organisés, c'est-à-dire quand il y a un boss, il y a un boss. Chez les gangs, leur organisation, elle est plus, imagine un peu, elle est plus de type cellulaire. Donc, chaque cellule de groupe de gars, parfois 4-5 gars, ont leur propre boss. Donc, tu peux avoir dans une wing 4-5 boss. Ça marche plus, là, tu comprends? C'est qu'au fond, les gars, là, la manière dont ils s'organisent à l'extérieur, ils s'organisent de la même manière à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ils sont pas confinés dans un endroit petit, puis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ouais, ouais.
Alors que à l'extérieur, leur façon de s'organiser, c'est viable. Même si parfois ils peuvent s'entretuer entre eux dans le même territoire, c'est quand même viable. Mais dans une prison, c'est invivable parce que dans une seule unité, ben, dans une rangée, tu peux avoir 4 boss. Puis ça dit pas la même affaire, puis ça fout le bordel. C'est là pour ça que on a une impression de chaos. En fait, c'est pas une impression, il y a une espèce de chaos.
Oh, et puis bon, là pour les agents correctionnels, on en profite. Et d'ailleurs, eux autres, ils ont pas signé leur convention collective. On est toujours en moyen de pression, mais surtout, écoute, ça traîne. 31 mars 2023, dernière convention, ça fait plus de 2 ans.
Ouais. Ben, moi, je te dirais. Concernant les conventions collectives, je m'en mêle pas. Je leur dis, moi, je suis criminologue, je suis pas politique.
Non, mais on comprend aussi le climat avec ça, hein? Parce que
oui,
ça amène une pression, ça amène un stress, là, sur tout le monde en boîte, là, comme on dit.
C'est vrai.
Et là, ben, là, on leur donne des outils, les cellulaires aussi. Là, on dit que les gangs de rue, puis les cellulaires, ça va bien.
Ben, écoute, les cellulaires, c'est tout le monde. C'est pas juste les gangs de rue. C'est tout le monde. Tout le monde a des cellulaires en dedans. Tous. Ils font rentrer les cellulaires, ils font rentrer... ben, bien sûr, la dope, là. Avant, là, ce qu'il faut comprendre, avant, il y avait beaucoup moins de drogue dure à l'intérieur des murs. Maintenant, il y a tout. tout. Ça coûte plus cher, bien sûr.
Bon,
mais il y a de tout. OK? Alors, ce qui fait, ça fait quoi? Ça fait que les gars sont plus crackpot qu'avant, là. Ça, les gars, là, sur des drogues dures, là, avec ecstasy, méta, cocaïne, crack, tout ce que tu veux, là. Et t'imagines ça en dedans? Quand c'est complètement gelé, complètement. Puis avec les psychoses carcérales, t'imagines comment tout ça joue ensemble? Il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale aussi. Donc, tu mélanges tout ça, ben, ça te donne l'état de nos prisons et de nos pénitenciers avec un espèce de déséquilibre des forces entre les détenus et pas les gardiens, mais l'administration en général. Parce qu'il n'y a pas juste les agents correctionnels, tu as les directions. Les directions qui ne savent plus trop comment gérer parce qu'ils sont bombardés de plaintes, de directives de la cour, de jurisprudence. Puis là, il faut faire attention. Et pourquoi ils font comme ça? Parce qu'ils ne sont pas baqués, quant à moi, par le politique. Même la direction, et puis ça, c'est sans compter les nominations partisanes, là. Dans la direction, là, dans les directions.
Ah ouais?
Il y en a aussi. Les nominations, là, quand tu nommes du monde, là, qui ne s'y connaissent pas vraiment en gestion ou qui ne s'y connaissent pas vraiment en prison, il y en a qui sont très compétents, là, je le redis une fois, là, je ne veux pas généraliser, il y a du monde très compétent, puis il y a du monde très incompétent, puis il faut le dire. Puis malheureusement, ils font ce qu'on leur demande. Ils font les jobs de bras. Ils font les jobs. Si vous remarquez bien, dans les prisons là, quand on en parle, c'est seulement quand ça va mal.
Ouais.
C'est-à-dire quand il y a des évasions, quand il y a des drones, quand il y a des émeutes. Mais quand on n'entend pas, quand ça revire pas de bord là, on n'en entend jamais parler. Mais ça veut pas dire que ça va bien. Ça veut dire que c'est bien étouffé. Vous voyez la différence?
Oh, oui.
Alors, comment ça se fait que c'est bien étouffé? Et parce qu'il y a du personnel qui est mis en place dans la gestion, dont l'unique job, ben, c'est d'étouffer tout ça. Tout simplement pour que personne ne sache rien de qu'est-ce qui se passe dans les prisons. Moi, je trouve que c'est un lieu qui manque énormément de transparence. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pas normal. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Il faut que les citoyens soient au courant que les gens qui travaillent là-bas, là, ils protègent leur vie
d'une
façon incroyable.
Tous les jours.
Les violences qui se passent en dedans, là, on ne les accepterait jamais en communauté. C'est des agents qui se font cracher dessus, qui se font piquer, qui se font battre.
Ils se font traiter tout et non.
Traité de tous les noms. Et puis quand t'es une femme,
tu dois passer au cash.
Et pas à peu près. Pas à peu près. Les mots qu'on te dit, psychologiquement, là, c'est extrêmement dur. Mais malheureusement, la culture institutionnelle, puis la culture populaire aussi, là, c'est de croire que c'est ta job, là. T'as choisi de faire ce job-là, assume, c'est violent, puis c'est ta job, tu dois l'assumer. C'est pas normal qu'on ait cette façon de faire. Moi, là, je vais vous dire une chose. J'ai visité des prisons ailleurs dans le monde. OK?
Oui.
Bon, il y en a que c'est terrible, là.
Ah, là, il y a des trous, là.
Il y en a, là, oublie ça, là. C'est des cages à homards.
Ici, ça broierait, là.
Tout à fait, là. Il capoterait, là-bas, là. Si vous prenez une wing chez nous, là, vous envoyez ça au Salvador, là, vous allez voir. Là-bas, ils vont connaître des vrais gros durs en dedans, là.
Oh oui.
Mais je suis allée en Norvège, OK? Puis j'ai vu comment certaines de leurs prisons fonctionnent. Mais il n'y en a pas des insultes entre détenus puis agents correctionnels, là. J'ai vu des prisons, là, incroyables, là. Les agents sont habillés en civil. Ils ne sont même pas habillés en agent correctionnel. Ils n'ont absolument aucune arme sur eux. L'ambiance est... Écoute, l'ambiance est carrément bon enfant. J'avais l'impression d'aller dans un centre jeunesse. Pourtant, c'était des prisons. Donc, il y a des façons de faire qu'on pourrait faire, mais on le fait pas forcément parce qu'on a développé une culture institutionnelle violente, puis on a normalisé ça, si c'est normal, alors que ça ne l'est pas.
C'est compliqué parce qu'on n'est pas capable d'intercepter les drones. on est même, je comprends même pas pourquoi on n'a pas encore installé dans les prisons au Canada des brouilleurs d'ondes pour ce qui est des cellulaires. C'est incompréhensible, tout ça.
Mais écoute, ça, j'en ai parlé, puis...
Ça bouge pas, hein?
Ça bouge pas. Au fédéral, soi-disant, ils en auraient, puis ils sont en train de voir avec la GRC, mais moi-même, je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué.
Regarde, je regarde...
Parce, les brouillages d'ondes, là, faut que tu le saches, là, c'est fédéral. Ouais. Il semblerait que nous, au Québec, là, on n'a pas le droit, là.
Mais non, c'est okay? ça.
Ah, c'est dans incroyable.
Ça peut le faire, là!
Ah oui, ça n'a pas de sens!
T'imagines que c'est le fédéral qui doit nous donner l'autorisation de le faire.
Ah, mais on dit que, du côté de la prison de Québec, là, on dit que c'est la pire au Québec. Il faudrait 142 millions de dollars pour la remettre à neuf. Imagines-tu? On annonce des petits plasteurs tout le temps, là, 2 millions, 3 millions pour le réseau, 4 millions. Il y a de l'argent à mettre dans nos prisons, pas à peu près, là.
Ben, c'est une vieille prison, puis juste pour te montrer comment l'architecture a un problème, c'est que les gars, ils peuvent passer de la contrebande à travers les conduits des toilettes.
Mais voyons.
D'une unité, d'un étage à l'autre. C'est-à-dire, la manière dont ils ont construit ça, là, le brillant qui a construit ça il y a très, très, très longtemps, là, je me rappelle plus de l'année de construction de la prison, là. Ben, lui, il a fait en sorte que tous les conduits des toilettes, là, ben, ça se suit, là, d'un étage à l'autre.
Incroyable.
Donc, alors tu peux communiquer avec le gars d'en dessous de ta cellule, là, passer la contrebande sans problème. Donc ça, tu vois, déjà, à la base, la construction, là, elle est désuète, elle fonctionne plus, là, avec le système qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec les gars qu'on a actuellement, là, oublie ça, là, ils sont très doués, là, à passer la contrebande. T'auras beau, par exemple, hein, si tu fermes tout un étage avec les deux rangées, tu les fermes et tout, parce que tu sais qu'il y a de la contrebande là-bas, ben, dès que tu vas te mettre à fouiller, il n'y a plus rien parce que ça rentre dans les conduits. Et les gars font descendre ça dans les toilettes, là. Ils attachent ça avec du fil, les draps, là. Ils sont créatifs,
je te l'ai dit. Quand tu as du temps à toi, là, tu deviens créatif. Mario, on pourrait encore en parler pendant 20 minutes, mais on n'a plus de temps. Bon, on avait un autre sujet, c'est ça le pire. Hein?
Ouais.
Ben, regarde, c'est pas pire parce que le sujet qu'on va parler à la prochaine chronique, ben c'est le sujet qu'on va développer
la prochaine fois.
Les prisons, hein, ça fait, je pense, c'est trois chroniques en ligne qu'on devait parler des prisons, mais on le fait aujourd'hui. Super. Mario Morani, criminologue, merci beaucoup de tes lumières et on se reparle. Salut.
Avec grand plaisir.
Bye bye.
À bientôt. Bye.
Elle est branchée.
Ben oui.
Elle est branchée.
C'est des brouilleurs d'ondes, puis c'est pas compliqué.
Ben non,
là.
Écoute, c'est épouvantable.
Mais au Canada, au Québec, c'est compliqué.
Mais comme elle dit, hein, les gens en haut, là, dans les prisons, il n'y a rien qui passe. Tu n'entends rien. C'est comme des tons.
Ouais, ouais.
Okay. On étouffe.
OK.
Là, il y a des négos. On entend un petit peu plus parler parce que là, il y a des négos. Et les agents correctionnels sont en moyen de pression. Encore récemment, il y avait une manif, là. Mais tu vois, ça fait 2 ans que leur convention collective est finie. Là ils demandent aux autres plus de protection.
Ah oui, je comprends. Le texto tantôt, la personne me disait, je vous confirme qu'à la prison de Québec, ils n'ont pas de veste par balle anti-pique puis il n'y a pas de poivre de Cayenne.
Hey.
Comment ça?
Hey. En tout cas, on vous aime, les agents correctionnels.
Puis tu sais, ça brasse, il y en a qui étaient venus ici en onde pour dire, c'est épouvantable les conditions qu'on a.
Voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause.
Oui, 88-670-9098.
Sujet. Il y a 2-3 plans. Ah. On peut appeler. Moi, le RTC avec les billets d'autobus.
Oui.
Ben, avez-vous été chercher vos billets d'autobus?
Ben oui, puis allez-vous y aller?
Ouais, mais moi, j'ai pas le temps, là. Je reste à Québec. J'ai pas le temps de faire ça 20 semaines.
Ben non.
Mais j'avais d'autres choses à faire.
L'autre sujet, c'est l'Office québécois de la langue française. Moi, je crains l'Office qui. Tu sais, ils font déjà du zèle dans les compagnies.
Ça va venir débile. Ils vont prendre
les plaintes anonymes. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution pour sauver le français, là?
De partir une guerre avec les détaillants, les écœurants encore.
Dégorger nos PME.
Ouais.
88-670-9098.
On revient après la peau.
Couture. Dans le mid.
Okay. Radio X.
Morée. Live.
Moi, je suis concerné par les finances publiques. La dette, c'est combien?
C'est-à-dire
la dette nette du gouvernement. On peut se tromper de 10, 15 milliards.
Dette nette ou dette brute?
Net.
C'est autour de 40.
Je vais vous le donner. 40. Mais la dette, vous devez connaître le montant, là. Pour vrai, là, la dette.
Morée Live. Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par le maître constructeur Saint-Jacques.
Profitez du meilleur prix pour votre maison préfabriquée en réservant maintenant votre prix pour 2026. Planifiez votre visite de nos 9 maisons modèles. maîtreconstructeursaintjacques.com.
Le grand jour est arrivé. Pour votre déménagement, gâtez vos amis et vos invités avec le fameux baril de poulet PFK. Parce que le moment est toujours parfait pour du PFK, on vous attend à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-la-Capitale, Beauport, secteur Saint-David et maintenant au 840 Bouvier. PFK, des produits 100% canadiens, préparés sur place et frais en tout temps.
En juin, chez Cartier Chevrolet, c'est le retour de la grande vente sous la tente. Financement à 0% jusqu'à 72 mois sur tous nos Blazer et Equinox EV 2025. Quartier Chevrolet, Henri IV, sortie Sainte-Geneviève, 847-6000. Membre du groupe d'Aigle.
Partout où les Canadiens lèvent leur verre, Molson est là. Pis c'est pas pour rien. Quand ça fait plus de 230 ans que t'es au Canada, t'as été partout. Dans les verres et les frigos des Canadiens de génération en génération. Molson a une bière pour tout le monde cet été. Alors, lève ton verre ou ce dans quoi tu bois ta Molson.
Santé!
Parce que l'important, c'est pas dans quoi elle est versée, mais où elle est brassée. Canadian Export Ultra Excel. Molson, tous ensemble.
Vous devez avoir l'âge légal de consommer.
Une salle de bain à refaire? Vous souhaitez simplement une porte de douche moderne? Faites confiance à WS Summum. Des rénovations de qualité, une plomberie sans tracas.
Résidentiel ou commercial, depuis 20 ans, WS Summum, c'est la référence pour des portes de douche de qualité et des solutions de rénovation haut de gamme. On s'occupe de tout comme si c'était chez nous.
Parce qu'une maison bien rénovée, c'est une maison en paix. Pour tous vos projets réno et plomberie, contactez wssummum.com. wssummum.com.
Golf Le Binière. L'excellence à prix abordable. Les fins de journée le week-end, ça se passe au Golf Le Binière. Du vendredi au dimanche après 15h, profitez de notre promo de golfeurs et voiturettes motorisées pour 95$, taxes incluses. Golf Le Binière, Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20 à 15 minutes des ponts.
T'es restaurateur, traiteur ou dans un service alimentaire, tu cours après la main-d'œuvre, Légumes Élite est là. Avec des légumes frais coupés et prêts à l'usage, gagne du temps et réduit les pertes. Pour un devis ou plus d'infos, écris-nous chez Légumes Élite. Légumes.élite@commercialgmail.com.
Ta situation a changé, tu veux vendre ton véhicule? Va sur vendtonchar.com et rapidement reçois une offre en ligne. On paie le meilleur prix du marché. Tous les détails sur vendtonchar.com.
Vendtonchar.com. À l'usine de revêtement Canampont à Québec, on a vu grand. On a doublé la superficie et installé une foule de technologies, incluant des robots pour faciliter le travail manuel. Pour le confort, on a fourni des masques VersaFlow à tout le monde. Bref, on a investi dans un environnement moderne et sécuritaire. Et on a maintenant plusieurs postes à combler en revêtement et finition pour les gens avec ou sans expérience. Viens voir ce qu'on a à t'offrir sur canam.com. Canampont, un alliage solide de savoir-faire et de fierté.
Viens, Babine, on va prendre un selfie. OK, regarde la caméra.
Mondou est fier d'être dans le portrait depuis 1938.
La caméra. Babine, regarde la caméra.
On est choyé de faire partie des souvenirs de vos familles depuis si longtemps. Justement, vos souvenirs, on veut les mettre au cœur de notre prochaine campagne. Partagez-nous vos photos de famille avec vos boules de poils d'ici le 6 juillet et courez la chance de gagner l'un de nos nombreux prix. Tous les détails sur mondou.com.
La caméra, Babine!
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mythe. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier. The show must
go on. Radio X.
Pierre Poilus du Parti conservateur, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Ouais. Ben oui, oh oui, ça va bien. On s'empêtre d'un scandale financier, mais on en jase. Ça fait jaser, ça fait de la bonne radio. Du côté d'Ottawa, ma foi du bon Dieu, ça brasse là, cette semaine. Il y a eu des votes et là, discours du trône, est-ce qu'on va, on va avaliser tout ça? Est-ce que c'est quoi le plan de match qui se dessine pour les conservateurs?
Ben, ça a été fait hier au niveau du discours du trône. Il n'y a pas eu un vote en tant que tel. Il y a eu une entente entre les partis. C'est parce que le discours du trône, il faut comprendre qu'au début, lorsque le discours a été prononcé par le roi, on l'a analysé, on a demandé des amendements. Donc, les conservateurs, le Bloc et le NPD ont demandé des amendements. Ce qu'on a réussi à faire voter, donc nous, l'amendement qu'on demandait, c'est qu'il y ait un budget qui soit déposé. Donc, dans le discours du trône, on a fait inscrire que ça prend un budget qui soit déposé avant l'été. Ça, c'était
Mais on dit que les libéraux ne veulent pas respecter ça. Finalement, ils vont le respecter?
Non, parce que c'est sûr, quand on a un vote comme ça, même si c'est un vote majoritaire de la Chambre des communes parce que les trois partis d'opposition ont voté pour, c'est non contraignant. Donc, le gouvernement peut faire à sa tête puis dire, bon, merci de nous donner l'ordre, on s'en fout de votre ordre. Ça, c'est malheureusement, c'est pas un droit, mais c'est une chose qu'ils peuvent faire. Donc, mais on continue à mettre la pression à chaque paire des questions tous les jours. On demande d'avoir un budget parce qu'on a, en même temps qu'on a eu un discours du trône, il y a eu des crédits budgétaires qui ont été présentés. Là, on a les crédits parce qu'il faut savoir que vu qu'il y a une élection, les modes, les processus habituels de dépôt de crédit ont été comme un peu bloqués. Mais là, la semaine passée, les libéraux ont déposé des crédits, 486 milliards des crédits budgétaires. Une augmentation. Carney avait mentionné avant la campagne, il dit, je vais augmenter au maximum 2 % les dépenses. Puis là, il y a 16 % d'augmentation des dépenses. Des comptes de dépenses qui ont explosé. Puis là, on se ramasse avec ça. Pas de budget. Donc, tu as des crédits budgétaires, tu te fais envoyer un demi-billion, là, quasiment 500 milliards de dépenses supplémentaires, des comptes de dépenses qui augmentent, mais sans un budget global. Fait que là, le gouvernement nous demande de voter pour des choses qui des comptes qui explosent, comme par exemple les fameux contrats des compagnies, des sous-traitants. On dénonce ça depuis plusieurs années. Il y avait 20 milliards par année en sous-traitance. Même nous, on avait dit en campagne électorale, il faut couper ça au minimum de la moitié. Puis là, on apprend dans ces crédits-là qui ont augmenté, c'est rendu à 26 milliards de dépenses à des sous-traitants.
Ça, c'est des grandes firmes, notamment. Des firmes
comptables. Les McKinsey de ce monde, là, puis des grandes firmes qui reçoivent des contrats, de toutes sortes de choses. Fait que c'est ça. Là, on est dans une espèce de période là, que tu as Carney d'un côté qui essaie d'arriver puis de dire, regardez, là, je sais où je m'en vais, puis ça va bien aller, puis on va faire de grandes choses. Mais de l'autre bord, la réalité, c'est que les chiffres ne balancent pas, puis on est dans le rouge plus que jamais. On est dans une période là, qui s'annonce pire que Justin Trudeau.
Ouais, on parlait de 225 milliards qu'on allait mettre sur le déficit pour les 4 prochaines années du côté des libéraux. Mais là, on parlait quand même d'aller chercher 20 milliards pour les contre-tarifs, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça balancera pas pantoute, là.
Bien, pas du tout. Puis en campagne, c'est justement quand les libéraux ont présenté leur plan, ils avaient mis 20 milliards en revenus de contre-tarifs. Puis là, pendant la campagne, alors qu'ils annonçaient ça, ils ont, en cachette, Carney a fait voter un arrêt des tarifs, d'une grande proportion des tarifs, ce qui fait en sorte que ce revenu-là n'existe plus. Fait que t'es encore pire, ton déficit va être encore pire qu'annoncé lors de la campagne. Fait que c'est ça, comme je vous dis, on est là-dedans, là, on essaie de... Et c'est pour ça qu'on...
Ouais. Ben, est-ce que vous auriez pu voter contre le discours du trône et le faire tomber le gouvernement, ça aurait été quand même précipité. Là,
honnêtement, y a-t-il quelqu'un qui veut faire une élection demain matin?
Non,
le discours du trône, c'est un avis d'intention. On a fait nos demandes. Il y a des éléments là-dedans qu'on trouvait qui étaient très conservateurs, mais en même temps, c'est les moyens pour les arriver à ces enjeux-là qui sont pas là. Mais il reste que c'est pas avec ça. Là, pour aujourd'hui, c'était pas ça. Là, je pense que c'est le budget que ça prend. Et c'est pour ça qu'on met de la pression pour avoir vraiment un budget, pour avoir leur juste où on s'en va.
Ouais.
Parce que Carney a beau se prétendre un grand banquier, mais c'est parce que si les livres balancent encore moins que ceux de Justin Trudeau, là, on s'en va encore plus dans le mur solide.
Ben, c'est ce qui est annoncé, là, 225 milliards sur 4 ans. Mais on n'a pas l'année là, qui vient de se terminer, 31 mars 2025. L'année, on sait que l'an dernier, il y a eu 62 milliards de déficit. Mais l'année qui s'est terminée au 31 mars 2025, c'est quoi le déficit? On s'en va vers quoi? 80? 100?
On sait pas. C'est pour ça qu'on le pousse, on pousse. Il y a des gens, des analystes qui vont dire « Ah, mais écoutez, le gouvernement vient d'arriver en place, c'est normal, ça prend plus de temps, c'est normal qu'il y ait l'automne. » Mais je rappellerai aux gens qu'en 2008, après l'élection de 2008, ça a pris même pas 2 mois là, qu'il y avait les conservateurs, M. Harper avait déposé le budget. Parce que le gouvernement libéral est en place, même si c'est un nouveau premier ministre, il reste que ce gouvernement était là. Les fonctionnaires n'ont pas arrêté de travailler pendant l'élection. Je veux dire, les chiffres sont disponibles, les chiffres sont là.
Ouais.
Ils peuvent soumettre un budget à la Chambre des communes et au peuple canadien.
Mais selon
ils veulent juste pas le faire parce qu'ils savent que ça va mal.
Mais selon vos prévisions, on s'en va sur un déficit de combien l'année qui s'est terminée au 31 mars 2025, la dernière année? Ben,
on peut pas le savoir, c'est ça. Les gouvernements qui ont l'information, qui ont les chiffres, de ce qu'on voit, souvenons-nous que Mme Freeland avait annoncé 62 milliards de déficit dans sa mise à jour économique d'automne, qui est sortie presque à Noël. Mais après ça, on n'a pas eu d'autres données.
Là, ce qu'on a vu,
c'est les présentations de M. Carney en campagne électorale, qui nous a démontré qu'effectivement, il annonçait 235 milliards de dépenses supplémentaires dans les 4 prochaines années. Mais ça nous donne pas, là, l'idée, on n'a pas le budget, on n'a pas l'idée vraiment d'où on est rendu et où on s'en va. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de la pression là-dessus, parce qu'il y en a qui vont dire oh, « c'est pas grave, c'est pas important », mais non, c'est très important, parce que le plan de match là, du gouvernement, ça se démontre par un budget. Là, on a beau avoir des belles paroles de M. Carney qui a rencontré les premiers ministres lundi, puis qui leur a demandé « c'est quoi votre liste d'épicerie, c'est quoi vous aimeriez avoir ?» Mais c'est parce que tu vas faire ça avec quel argent, là? On le sait pas. On est rendu où? On peut pas continuer à dépenser l'argent qu'on n'a pas. Juste l'intérêt, on a déjà parlé ensemble, oui. L'intérêt sur la dette, là, c'est quasiment 55 milliards par année.
Juste l'intérêt. L'intérêt, c'est la dette. Là, t'as rien fait encore, là.
Exactement.
Là, les tarifs, on entend parler qu'il y aurait des discussions intenses. Dominique Leblanc est allé à Washington les derniers jours. On entend parler qu'il y aurait peut-être un deal qui se tramerait. Qu'est-ce que vous entendez, ça, Colline?
Ben, c'est ce qu'on voit, nous aussi, mais en même temps, quand M. Leblanc était à Washington, je pense que c'est lundi, on a vu M. Leblanc sortir de sa rencontre, une heure après, Donald Trump signer des tarifs pour l'aluminium puis l'augmentation 50% et sur l'acier. Donc, à un moment donné, d'un côté, tu dis ça va super bien, on négocie, de l'autre côté, t'as Trump qui arrive, qui en rajoute une couche par-dessus. Donc, c'est très difficile de voir où on s'en va. C'est sûr qu'honnêtement, on l'a dit en campagne et on l'aurait dit encore, on veut qu'il y ait une solution, on veut que ça se règle, que Donald Trump arrête avec ses tarifs, qu'il recule, qu'on finisse par s'entendre, qu'on réouvre le CUSMA, l'entente de libre-échange, qu'on ait une négociation qui ait de l'allure et qu'on reparte sur des bases économiques normales, entre guillemets. Ça, au niveau conservateur, c'est ce qu'on demande. Ouais. Là, maintenant, il faut que ça accouche. Et là, on a M. Carney qui s'est présenté comme le sauveur. Les gens ont voté pour lui en disant que ça va être notre sauveur face à Donald Trump. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes tarifs qui ont été mis en place par Trump, sont encore là. On a augmentation des tarifs à 50 % de l'acier d'aluminium cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme gain depuis l'arrivée de M. Carney?
Il n'y en a pas.
Zéro. Zéro. Au contraire, même, c'est encore pire que c'était.
C'est quoi le timeline? Parce que là, il faut savoir qu'aux États-Unis, 2026, il y a des élections de mi-mandat. Trump, lui, doit aller vite là, pour renouveler l'accord de libre-échange. Y a-tu
ben,
des... est-ce qu'on veut négocier rapidement d'ici l'automne? Ou...
Ben, c'est l'intention, je pense, du gouvernement, c'est de le faire. Nous, c'est ce qu'on demande aussi, tant qu'à être là, de réouvrir l'entente, de la négocier, de la fermer et que là, Donald Trump la respecte. C'est ça qui est l'objectif. Mais comment Donald Trump va aborder la négociation de ce traité de libre-échange-là? Parce que comme il est avec ses tarifs, c'est pas évident. Et là, il va tirer la couverture de son côté. Ouais. Il y aura pas de... Tu sais, c'est ça. Le problème, on est là. On fait face à Donald Trump qui vit une frustration de la négociation qu'il a faite à l'époque, dans son premier terme, avec Justin Trudeau, Christophe Freeland. Trump est demeuré amer de cette négociation-là. Puis on dirait qu'il y a comme une espèce de vengeance. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas...
Non, mais il sent toujours du Canada pour varger en premier. On regarde le modus operandi, là. Puis là, après ça, il s'entend avec d'autres pays. Puis là, il revient au Canada. Là, il fait une deuxième ronde sur le Canada. Il retape encore. Là, il va refaire une deuxième ronde de négo avec d'autres pays. Puis finalement, on va finir à 10-15%
de tarifs. En même
temps,
on peut voir que les Britanniques, la Grande-Bretagne ont fait une négociation, sont entendus. Donc, eux n'ont pas eu droit à l'augmentation des tarifs parce qu'ils ont réussi à faire une entente.
Ouais.
De notre côté, c'est ça, on se fait cogner dessus. Puis on a Carney qui est supposé nous sauver. Finalement, il n'y a rien qui bouge. Mais comme je vous dis, honnêtement, on espère que ça va fonctionner. On espère qu'il va y avoir une négociation qui va être solide puis qu'on va finir égal à égal avec une entente qui va être profitable pour les deux pays. Il faut en arriver à ça. On est toujours dit qu'on est prêt à collaborer. Par contre, les libéraux doivent céder. Là. Puis s'ils sont juste encore dans les paroles puis dans les... de bien paraître, puis que dans les faits, notre économie s'écrase, là, on n'ira pas loin.
Oui, bien là, la Banque du Canada, elle n'a pas de trouble, elle voit rien. Là. Tout est beau.
Ouais.
L'économie va bien. On est à 0,5 % de hausse du PIB réel au premier trimestre. On touche pas au taux directeur. On pense que là, on se garde des munitions, j'imagine, parce que là, on le voit venir. Là. Ça va faire mal. Il commence à avoir des mises à pied dans la forêt. Il commence à avoir des mises à pied dans d'autres secteurs.
C'est ce que je t'ai pour dire. On a des mises à pied, des entreprises dans les régions, Bellechasse, Tabos. Mes collègues me disent que les entreprises commencent à mettre à pied les gens, puis aussi les immigrants. Là. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'immigrants, mais que là, maintenant, ben, il y a moins de besoins.
Donc, le chômage monte tranquillement.
Qui dit ou des immigrants qui se font dire ben, on n'a plus besoin de toi.
Ouais.
Fait que là, ça crée d'autres problèmes. Fait qu'il faut qu'ils retournent. Non, c'est pas. Il n'y a rien de rose. Nous, on a vraiment, là, ce printemps, on a une courte session compte tenu de l'élection. On est ici pour 4 semaines. Le budget, c'est vraiment avec ça qu'on est capable de savoir où on s'en va vraiment, où le gouvernement s'en va. Et c'est pour ça que là, actuellement, ils nous tiennent dans le noir absolument, absolu, et on n'a pas de guide. Donc, le vrai plan pour un gouvernement, c'est de déposer un budget, puis c'est là que tu vois c'est quoi tes priorités, puis où tu es prêt à couper, parce qu'il va falloir couper à un moment donné, puis où tu es prêt à investir davantage. C'est ça là qui n'existe pas actuellement et qui est très inquiétant.
Le directeur parlementaire du budget fait quoi, lui? Il pourrait arriver avec des scénarios potentiels? Y a-t-il accès à des chiffres, lui?
Oui, puis on s'attend, je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, il va arriver avec une analyse aussi. Il va faire l'analyse, lui, des crédits budgétaires, le 486 milliards qu'on lui demande de voter. Là. On va avoir plus de détails de sa part, puis il va sûrement nous faire aussi des projections.
La défense, parce que là, on le voit, NORAD et autres, et l'OTAN, on veut augmenter les dépenses dans le secteur de la défense. Le Canada l'a dit, Carney l'a dit, le dôme, le Golden Dome, le dôme doré. Là, ça veut dire que pour l'armée canadienne, on va augmenter de beaucoup hein, les budgets?
Ben, la demande de l'OTAN depuis plusieurs années, c'est de monter à 2% de notre PIB, produit intérieur brut, qui fait en sorte que là, actuellement, on est autour de 1,34, 1,4%. Donc, ça fera augmenter le budget de défense quand même de 15 milliards environ, et un peu plus. Ça, c'est une chose. Là, M. Trump, je pense, demande d'aller à 5% du PIB. Oui. Ça, c'est absolument impossible. C'est complètement ridicule. Il n'y a pas...
On ne peut pas
se payer ça. Déjà, d'atteindre le 2%, c'est beaucoup d'argent. Il reste qu'à effectivement, que les projets de défense, les forces canadiennes, en général, actuellement, en arrachent énormément.
Ben, ça fait pitié, là.
Ça fait beaucoup pitié. Les équipements sont finis. Notre flotte de navires sont en train de percer. Puis les nouveaux commencent à se construire. On a du retard un peu partout. Bon, là, maintenant, c'est sûr que les contrats, les F-35, ça va finir par aboutir. Ils vont arriver, la flotte d'avions, les nouveaux navires un jour. Ouais. Les brise-glaces ont commencé.
Ouais.
Mais pendant ce temps-là, le temps passe. Les Américains mettent une pression sur nous. En même temps, l'histoire du dôme aussi, le dôme d'or qu'il appelle, le Golden Dome, là. Ça, dans le fond, c'est sûr que ça a l'air d'une nouveauté, mais il reste qu'on est déjà... Il y a déjà avec le NORAD, il y a déjà des systèmes qui existent. Par contre, le Canada, on ne fait pas partie du système antimissile balistique. Ça, le Canada a refusé de s'y joindre à l'époque. Donc, quand on est au NORAD, moi, je suis allé au NORAD déjà, puis quand on est là-bas, il y a vraiment... Tu travailles en collaboration étroite pour l'ensemble de la surveillance aérienne maritime, mais dès que tu arrives du côté balistique, les Américains sont seuls, la porte est fermée. Fait que ça, il y a, je pense qu'on a tout intérêt à joindre.
On a-tu perdu la confiance des Américains? Je sais qu'il y a les Five Eyes là, qui appellent. Mais on dirait qu'on est en train de mettre le Canada à l'écart. On travaille avec le Royaume-Uni, l'Australie peut-être, puis d'autres partenaires.
Oui, absolument,
on dirait qu'on nous a tassés dans le coin, là.
Les cinq pays, le Canada, à un moment donné, s'est fait tasser. Il y a eu des regroupements qui sont faits, qui ont créé d'autres organisations parce que le renseignement, la confiance envers le Canada par rapport aux sources de renseignement, aussi à la façon de protéger le renseignement, a été mis en doute dans les années Trudeau, beaucoup.
Oui.
Ça fait partie des choses qu'il faut resserrer les liens, resserrer aussi nos façons de communiquer avec nos partenaires qui sont fiables, comme le groupe des Five Eyes. Ça fait partie d'un paquet de choses qui ont eu beaucoup dans les 10 ans de gouvernance de Trudeau, qui a été un problème majeur. Autant les finances, la sécurité, la défense, et tous ces dossiers-là, on a fait pitié durant ces années-là. Et ça a un impact sur nous parce qu'on manque aussi de collaboration. Lorsqu'on a besoin d'informations sur des menaces, par exemple, sur le Canada, ben, les Américains ou les Britanniques
peuvent
retenir l'information parce que, tu sais, c'est ça, ils n'ont pas de...
Ils ne nous trossent plus, hein?
Oui. Mais ça, il faut ramener ça. J'espère que M. Carney va pouvoir ramener ça, mais il reste que l'équipe de l'autre côté, c'est la même gang. Moi, c'est ça que je disais. J'ai posé tout ça à M. Carney.
Oui, Freeland est encore là.
Et M. Carney me répond, il me dit, ah, c'est un nouveau gouvernement. Je me lève, ma deuxième question, puis je dis, je pointe tout l'ensemble du gouvernement. Je dis, regardez, monsieur le premier ministre, là, c'est toute la même gang qui est avec vous. Là. C'est les mêmes personnes. C'est Mme Freeland, Mme Joly, M. Leblanc, Champagne.
Ah,
c'est
oui.
le même monde que j'avais depuis 10 ans devant moi. Là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé là.
Mais d'ailleurs, concernant la Chambre, tout ça, beaucoup de questions via la messagerie, M. Paulus. C'est quoi les développements? Est-ce qu'il y a des développements, en fait, pour ce qui est de la partielle, pour que Pierre Poilievre puisse se faire élire et qu'il soit au Parlement? Mike Carney avait dit, on n'y aura pas trop avec ça, mais j'ai l'impression que il n'y a pas trop de développement à ce niveau-là.
Il y en a. C'est parce que l'idée, c'est parce que mon collègue Damien Carrick, qui laisse son siège, devait démissionner, ce qu'il a fait la semaine passée, parce qu'il fallait être en Chambre. Il a fait un discours de démission. Là, après ça, ben, selon les procédures parlementaires, il faut attendre 30 jours.
Oui, c'est long. Après là, il y a de l'étapisme.
Après 30 jours, il y a 11 jours avant que le premier ministre reçoive comme l'avis pour déclencher une partielle. Donc, ça prend minimum 41 jours depuis la semaine passée. Ça nous met à la fin juin. Là. Puis, on prévoit que si M. Carnet exécute déclenche la partielle dès qu'il y aura le pouvoir de le faire, ça fera une élection qui se déroulera dans le mois de juillet avec un vote début août.
OK. Pierre Poilus, député fédéral Charlebourg-Saint-Charles, merci beaucoup de vos lumières. Bon, on garde le contact, on se tiendra des petits meetings comme ça. Les Inside Five Eyes, on est bon. À la prochaine.
Salut. Bonne journée.
Un ancien militaire, hein?
Ben oui.
Donc lui, il connaît pas mal Absolument. La game dans l'armée, là, puis le moral des troupes. Mais c'est ça, on s'est fait tasser, les Five Eyes.
C'était pas une bonne nouvelle.
Non, ils nous ont, les Américains ils ont dit, vous êtes, ben avec Trudeau, évidemment, ouais. là, vous êtes pas trop stable. On vous donne l'info, puis vous coulez ça l'autre bord à Macron, ben à la gang de l'autre bord.
Pas très fiable, en effet.
D'ailleurs, l'attaque de drones qu'il y a eu en Russie.
Oui.
Il y a des rumeurs que ça a été orchestré beaucoup avec les Américains, le Mossad israélien, puis peut-être même le Royaume-Uni, là, le MI6.
OK.
MI6. Hein, c'est le service de secret renseignement de Royaume-Uni. Apparemment que les gars regardaient ça live sur la TV.
Eh bien.
Et les autres, il y avait le.
Ils savaient. Il avait été mis au courant.
Mais s'il l'avait dit au Canada, d'après moi, ça aurait fuité.
Ouais.
Couture. Dans le mid.
Okay. Radio X.
Vous payez le prix employé chez JD Jeep Ram de Bois-Châtel. Et c'est jusqu'à 8 500 $ de rabais sur des Jeep Wrangler.
Combien?
8 500 $ de rabais chez JD Jeep Ram. À une minute des chutes.
Groupe JD, l'incontournable.
Ce week-end au Stade Canac, place à l'action avec les Capitales du Québec qui affrontent les Rocks de Brockton. Vendredi, feu d'artifice. Samedi, hot dog à 1 $. Dimanche, billet enfant à 5 $. Une sortie parfaite en famille ou entre amis. Billets à capitaldequebec.com.
Les conseils des Jérémy.
Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a Sylvain qui nous demande...
Ouais, c'est quoi là, le meilleur tissu pour un fauteuil quand t'as 3 enfants?
Oh, bonne question. 3 enfants, man. Pff, meilleur conseil, fais juste pas payer les taxes.
Excellent call.
Jusqu'à dimanche, on paie les 2 taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, bien se meubler, moins dépenser.
Viens chez Beauport Mazda chercher ton CX-30 2025 prêt pour livraison immédiate à partir de seulement $95 par semaine. Beauport Mazda rue Clémenceau, 667-3131, beauportmazda.com, membre du groupe d'Aigle.
Peinture industrielle LT, c'est le spécialiste de la peinture de produits de finition en construction. Chaque année, on peint plus de 150 000 moulures pour des entreprises établies. Peindre moulure, pliage d'aluminium ou acier en 72 heures livré sur le chantier, on fait ça. Peinture industrielle LT sur Perle-Lièvre.
Savais-tu qu'un frigo, ça ne contient pas juste ton épicerie? Ça contient aussi 1 tonne de GES. Pour t'en débarrasser, recycle ton frigo avec Go Recycle. Trouve ton point de dépôt à gorecycle.com. À Go, recycle ton frigo.
Choix. D'accord. Pas d'accord. C'est bien correct.
Soit.
Faites-vous. Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mid. Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Notre invitée, elle est là. Emmanuelle Faubert de l'Institut économique de Montréal. Comment allez-vous?
Très bien, vous?
Oui, ça va bien. Ça va moins bien dans les urgences. Là, on regarde le temps d'attente. Vous avez sorti hier une étude où, depuis les 5 dernières années, ça a augmenté beaucoup au Québec.
Effectivement. Donc, l'année dernière, la durée typique d'un séjour à l'urgence était de 5h23. Et c'est une augmentation de 1 heure en 5 ans.
Ça, c'est médian. Hein? C'est le temps médian, il faut le dire.
Exactement. Donc, la médiane ici... C'est le point milieu. Donc, ça représente le fait qu'il y a 50 % des gens qui vont attendre moins longtemps et l'autre 50 % va attendre plus longtemps.
Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que depuis les 5 dernières années, ça rempire et c'est pas juste au Québec, c'est partout, là, mais c'est quand même inquiétant?
Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs facteurs qui affectent ces résultats-là. Entre autres, il y a les changements démographiques, le vieillissement de la population. Ça affecte toutes les provinces et pas juste même le Canada. Il y a aussi une difficulté grandissante d'avoir accès aux soins de première ligne. Donc, on parle aussi de médecins de famille, tout ça. Et un autre problème qu'on voit aussi, c'est une difficulté pour les patients qui ont des urgences mineures. Donc, on prenons l'exemple d'un bras cassé. On peut pas aller voir son médecin de famille parce que on va avoir une prescription pour un rayon X, mais ça va prendre plusieurs mois. Donc, c'est une urgence, donc c'est pas assez rapide. Mais si on va à l'urgence, ça peut prendre des heures, voire même toute la journée. Donc, il y a une espèce de chaînon manquant qui existe dans ce niveau-là d'urgence mineure.
Qu'est-ce qu'il faut décortiquer de cette réalité-là? La population vieillit, l'argent ne suit pas. Le fédéral qui donne de l'argent aux provinces sur le plan fédéral de la santé, notamment la loi sur la santé qui oblige les provinces à fournir des soins de santé à tout le monde de façon gratuite et égale, pas inégale, mais égale. Tout ça, on a de la misère à livrer. Et là, ben, on arrive avec cette réalité-là. C'est quoi la prochaine étape? Sais-tu qu'on va continuer à avoir des délais ou on va falloir que quelqu'un prenne le bâton et on règle le problème?
Vous l'avez bien dit. Donc, ce qu'on fait depuis des décennies, c'est quand il y a des problèmes, on va injecter plus d'argent. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas, les résultats ne s'améliorent pas. Donc, sur ça, ce qu'il faut vraiment qu'on fasse, c'est regarder ce qui est fait dans les pays avec les systèmes de santé les meilleurs au monde et voir comment on pourrait adapter certains de leurs modèles chez nous pour réduire l'achalandage dans les urgences et pour réduire la congestion.
Pourquoi on le fait pas?
Il y a une question de volonté, il y a une question de bras de fer entre le gouvernement et les médecins et le réseau indépendant, parce qu'en ce moment, comme on peut le voir au Québec, il y a des limites grandissantes sur la place du réseau indépendant en santé. On parle avec les infirmières, les infirmières indépendantes et tout ça. On parle de limiter la médecine indépendante. Donc, il y a une volonté de ramener tout le monde vers un réseau public, mais le problème, c'est que notre réseau public, il est dysfonctionnel. C'est une machine bureaucratique qui est extrêmement lent et inefficace. Et donc là, il y a ce bras de fer-là et il y a un manque d'ouverture pour la médecine indépendante qui, dans les systèmes de santé les plus performants au monde, collabore avec le réseau public pour s'assurer que tout le monde est traité rapidement.
Vous connaissez bien cette situation-là comme chercheur. Vous étudiez la question de la santé un peu partout dans le monde. Où que ça fonctionne bien et comment ça fonctionne?
Donc, donner un exemple d'une solution qui a été trouvée en France.
Oui.
Particulièrement. Donc, en France, il y avait ce même problème de chaînon manquant pour les urgences mineures. Et des médecins se sont rendus compte du problème et ont décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert une clinique de ce qu'eux appellent bobologie. Donc, justement, spécialisée dans les urgences mineures telles que des infections, la grippe, des fractures ou, dans le fond, des cas qui sont non vitaux. Et, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que ils permettent à ces gens-là, qui ont des gens qui habituellement passeraient des heures à l'urgence, d'être vus rapidement, incluant des salles de prélèvement sanguin, de rayons X, ce qui fait en sorte que ces gens sont vus rapidement là. Ça donne une alternative aux urgences, ce qui fait qu'il y a moins de gens qui se rendent à l'hôpital. Et ce projet-là, qui a commencé avec une clinique ouverte par deux médecins, maintenant c'est tout un réseau qui existe en France qui a pour but de désengorger les urgences.
Est-ce que c'est privé ou public, ce réseau-là?
C'est indépendant. Okay. Donc oui, c'est privé. Et la façon comment on pourrait intégrer ça au Québec et au Canada, c'est on se serait toujours couvert par la carte soleil pour respecter la loi canadienne de la santé, mais ce serait géré de façon indépendante. C'est une initiative qui serait menée par la population, par les médecins, et parce que c'est indépendant, la gestion serait indépendante, ça permet d'aller en dehors de cette machine bureaucratique du système public qui rend l'avancement difficile en ce moment.
Mais c'est où que ça bloque? Parce que là, tu sais, on regarde les médecins, là, il y a des négos avec les médecins de famille notamment, et on a l'air à se renvoyer la balle. Le gouvernement veut plus de public mur à mur. On parle au regroupement provincial des comités d'usagers qui, eux, disent la structure, faut remettre ça en question. On voit toujours l'urgence comme la seule porte d'entrée dans le système quand on est en panique, alors que là, vous nous dites qu'il y a des alternatives. Mais pourquoi on les fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Où que ça bloque? Il y a du corporatisme?
Exactement. Et aussi, il y a une... le gouvernement confond universalité avec public. La réalité, c'est que eux veulent un système 100% public et universel. Mais la réalité, c'est que c'est difficile d'avoir un système qui est 100% public, mais qui reste universel. Parce que si on laisse tout ça dans le réseau public, ils font finir par avoir du rationnement. Et c'est exactement ce qu'on a ici, les temps d'attente, c'est une façon de rationner les soins. Alors que quand il y a une collaboration entre les deux réseaux, ce qu'on voit en France, en Suède, en Allemagne, même en Angleterre, dans les réseaux qui sont plus performants que les nôtres, on voit que ça fonctionne. Mais il y a ce désir-là, pas juste au Québec, mais à travers le Canada, de maintenir un réseau 100% public au dépens de l'accès pour la population et les patients.
Donc, de l'argent, de la volonté politique, c'est tout ce qu'on dit depuis 30-40 ans, là?
Essentiellement. Pas juste de l'argent, mais juste des façons de repenser les choses. Par exemple, la clinique le modèle de clinique dont on parle...
À Québec, là, ouais, notamment?
Mais ce sont des cliniques, c'est moins cher qu'une salle d'urgence.
Ouais.
Parce que ça prend moins d'infrastructures, l'équipement est moins cher que ce que tu retrouves dans un hôpital. Donc, ça reste un modèle qui est moins cher, mais ça prend la volonté de tenter des choses qui vont en dehors de ce qu'on fait depuis des décennies.
Parce qu'à Québec, on a la clinique d'urgence mineure Jeffrey Hale qui fonctionne très bien, qui pourrait être vue comme un modèle, une espèce d'exception dans le réseau, là.
Exactement. Donc, avoir des modèles comme ça, c'est pas juste une question d'en avoir une, mais l'idée, c'est qu'on en a besoin de plusieurs. Et ce bras de fer entre le privé et le public fait en sorte qu'on n'arrive pas à avoir une extension de ce modèle de clinique d'urgence mineure.
Dans ce cas-là, est-ce que Santé Québec, là, on a ajouté une structure de plus là, depuis quelques mois au Québec, est-ce que Santé Québec pourrait prendre le lead à ce niveau-là? Est-ce que c'est notamment là, c'est pour les raisons on les paye, ils sont devenus des gestionnaires du réseau. Est-ce que est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté là?
Le problème avec Santé Québec, c'est qu'on a engagé des gestionnaires pour gérer d'autres gestionnaires. Donc, ça fait en sorte que ça ne vient pas régler nos problèmes de bureaucratie excessive, de paperasse. Parce que la réalité, c'est que les gens qui savent quels sont les besoins locaux, ce sont les médecins, ce sont les infirmières praticiennes, ce sont les gens qui sont sur le terrain. Ce n'est pas des gens qui sont dans des tours à Québec.
Là, ce que vous nous dites, finalement, c'est que le virage que le gouvernement, le nouveau virage avec Santé Québec, plus de fonctionnaires, plus de public... Et on veut comme limiter aussi l'accès des nouveaux médecins là, au privé. Ben, tout ça, on fait fausse route.
Tout à fait. Dans les systèmes les plus performants du monde, on va dans des directions opposées. Par exemple, dans la majorité des pays de l'OCDE, les médecins sont en mesure de faire ce qu'on appelle de la pratique mixte, donc qui est d'exercer la médecine simultanément dans le réseau public et le réseau privé. Par exemple, en travaillant à temps plein dans le réseau public, mais en faisant quelques heures en clinique privée la fin de semaine. Mais en ce moment, ce n'est pas possible pour les médecins québécois. On doit faire le va-et-vient, c'est un ou l'autre. Et donc, ça crée d'autres problèmes. Donc, il y a de plus en plus de contraintes qu'on met au Québec et au Canada pour essayer de ramener tout le monde vers le réseau public. Réseau public qui est malheureusement défaillant et n'est pas capable de soigner la population.
Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change, selon vous? Ça va-tu prendre encore une dizaine d'années, une nouvelle vague de politiciens, des partis politiques plus ouverts? Parce qu'on ne voit pas, là. On voit pas à qui on veut séduire. On veut séduire les baby-boomers là-dedans. Les jeunes, eux, ne trouvent pas leur compte pour l'instant. Les jeunes payent et voient pas, n'ont pas accès à des médecins de famille non plus.
Mais ça commence par la population.
Oui.
Parce que c'est la population qui va élire... qui va élire les députés. Donc, il faut que la population se prenne conscience de l'ampleur des problèmes. Et après ça, aller parler aux décideurs politiques. Ça va passer. C'est une décision qui, comme on l'a dit, c'est les gens sur le terrain qui savent quels sont les besoins dans les hôpitaux, mais c'est la même chose pour la population.
Une fois
que la population réalise ce dont elle a besoin, il faut qu'on y aille du bas vers le haut.
Madame Faubas, c'est pas la première fois qu'un parti politique qui arrive au pouvoir arrive également avec sa réforme. Là, ça fait plusieurs réformes dans le système de santé qu'on voit venir. Ça semble pas être la solution. On dirait que les dirigeants du ministère refusent d'écouter justement ceux qui sont sur le terrain.
Effectivement. Donc, ça prend des gens des décideurs politiques qui proviennent du terrain et qui comprennent vraiment ce qui se passe.
On a eu des médecins, là. On a eu des...
Oui, on a eu.
Tu sais, il y avait Barrette. Après ça, il y a eu Bolduc. Tu as eu Couillard. Puis là, tu avais avant ça Rochon. Puis c'était tous des... supposément des grandes... des grandes... des grands savants du système. Puis ça roule pas encore comme on pense que ça devrait rouler. Mais ça va prendre quoi plus que ça? Ça va prendre une réforme complète? Ça va prendre une révolution qui vient de la base?
En fait, ça va prendre une variété de différentes solutions parce qu'il n'y aura jamais une seule solution magique. Il va falloir une variété de solutions pour répondre à différents problèmes.
Comment votre rapport a été reçu? Là, vous l'avez sorti hier. Avez-vous parlé avec des politiciens? Avez-vous parlé avec des partis politiques? Avez-vous des échos de l'Assemblée nationale notamment? Ou c'est silence radio puis on ignore tout ça puis c'est du bruit sur la ligne? Puis...
Personnellement, moi, j'ai parlé aux médias. Donc, nous avons mis le rapport sur l'espace public. J'ai eu des vents que ce rapport-là a été mentionné à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Mais à part de ça, moi, je n'ai pas eu de contact direct avec les partis politiques.
Et vous êtes prête à vous asseoir avec les partis politiques pour leur expliquer l'état de vos recherches aussi, là?
Tout à fait.
Excellent. Emmanuel Faubert, d'Institut économique de Montréal, merci beaucoup de votre temps et au plaisir de se reparler prochainement.
Merci à vous.
Bye-bye.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, Emmanuel Faubert. Ben écoute, hein, c'est assez clair. Là, ce qu'on vit au Québec, c'est un changement de paradigme complet. On s'en va dans un mur, ça fait des années. Je pense qu'on a atteint le mur.
Oui.
La population vieillit, les coûts explosent, le modèle n'est pas bon. Puis t'as des politiciens.
Le système est déficient.
T'as des politiciens pas bons qui continuent à jouer pas bon. Puis là, t'as des chercheurs qui, eux autres, font le tour du monde. Puis ils regardent, regardez là. Là, ça fonctionne, c'est comme ça. Là, ça fonctionne, c'est comme ça. Mais nous autres, on est, je sais pas ce qui se passe. Y a-tu un lobbying à l'interne? Ils veulent pas bouger. Il y a du monde qui protège le job. On se prête du
monde.
On arrose, puis on arrose, puis on arrose.
C'est toutes ces réponses. Je pense que le Collège des médecins fait de la pression. Les syndicats au niveau des infirmiers et infirmières